Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin, Pascal CV. Votre émission du midi, de midi à 14h. Énormément de sujets à parler aujourd'hui. Évidemment, on va revenir sur l'entrevue de M. Wu et Louis Campagna, ex-président du conseil de quartier de Saint-Roch, concernant les prises de position sur l'itinérance et le retrait de Napoléon Wu de l'équipe de Leadership Québec. On va parler de ça avec Antonine dans le caucus. On aura aussi Joanie Fortin qui va venir nous joindre pour parler du défi Kilimanjaro avec Pascal CV. Marc-Antoine Reed m'a dit qu'il était un petit nerveux excité un matin. T'es comment, toi?
Ouais, on est un peu dans la fébrilité, honnêtement. Ouais, moi, j'ai texté Marc-Antoine en fin de semaine en majuscule. Ouais. J'ai juste écrit « Comment ça va? »
C'est ça.
On se comprend, là. on est un peu... Dans la fébrilité, on pèse nos bagages. Là, c'est trop lourd. Faut enlever du stock. Là, ça vient stressant. Mais tu sais, on est là-dedans, mais on sait qu'on va vivre une superbe aventure.
Mylène Moisan va venir nous parler également de ce refus de la Cour suprême d'entendre la DPJ qui tentait de se protéger d'une faille, malheureusement, un enfant là, qui a été... ça a pris 5 signalements de violence avant, justement, qu'on le retire de sa famille. On aura Rémi Villemur qui va nous parler du retour de Jimmy Kimmel, puis un petit bilan de Valérie Plante à la tête de Montréal. Et on aura également Valérie Courchaine, une spécialiste, qui va venir nous parler. C'est vrai que le tinénol, ça cause l'autisme?
J'ai tellement hâte de l'entendre. Là. Hier, quand je fin de journée, les yeux embrouillés, je regarde
je croyais
ça,
pas,
ping, moi. Voyons... Quoi? Donald Trump qui veut passer un genre d'avis pour que les femmes enceintes prennent pas de Tylenol parce que là, ça cause l'autisme.
Tu sais que Donald Trump, tout à l'heure, devant les représentants de l'ONU, a dit « Moi, j'ai mis fin à 7 guerres en 7 mois. Je les cherche encore. » À quelle guerre?
Mais c'est le pire, c'est qu'il y a des gens qui croient ça. Ils entendent ça. Comme, ben voyons, chose.
Ah ouais, la Russie n'a jamais été dans un état aussi lamentable.
Il n'a jamais mis fin à ma guerre personnelle contre lui, qui est juste de trouver un peu de jugement là, dans tout ça depuis son élection.
Ah, j'écoutais ça, c'était surréaliste. Là, tu vois les gens à l'ONU qui regardent, on dirait que personne n'ose parler ou rire. En tout cas, bref, c'était très, très, très particulier comme ambiance à l'ONU. C'est l'heure, on commence immédiatement ce mardi avec
le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini, comment ça va?
Ça va bien.
Good. Donc, parles-tu d'itinérance et de Napoléon Wu? Qu'en penses-tu?
Ça fait tellement réagir, cette affaire-là. Tout le monde parle de ça. Cette tournée d'entrevue de M. Wu, vous l'avez reçue ce matin.
Ouais.
Il persiste et signe.
Oui, c'est ça. Il persiste et signe. Il y a des... Mettons qu'il y a des entrevues émotionnellement plus faciles que d'autres. Moi, ça vient beaucoup me chercher quand on vient parler, là, justement, contre les gens qui accompagnent les personnes itinérantes. Ils n'ont pas toujours les pistes de solution parce que ce n'est pas toujours facile, mais ils font un travail remarquable, honnêtement. Et quand tu dis le persiste et signe, bien justement, je vous fais entendre le premier extrait où il reste dans sa position.
Et c'est la vérité, là, tu sais, le culte de l'itinérance, là, comme j'ai dit, là, tu peux vivre à Québec sans travailler, vous êtes nourri, logé, des vêtements gratuits, là. Personne n'est obligé de travailler à Québec pour vivre, je le répète, là.
Oui, donc vivre dans la rue, c'est vraiment bien. Je veux dire, les gens qui vivent dans la rue sont dans le confort de la rue à moins 20 en plein mois de février à quêter un repas à l'Aube-Rivière. C'est ce que M. Wu croit. Samamad l'a expulsé, justement, de Leadership Québec. Est-ce que Samamad n'aurait jamais dû le présenter? L'expulsion est une bonne décision, mais en même temps, il l'a présenté vendredi passé.
C'est toujours le pire des deux mondes d'accueillir un candidat dans ton équipe et d'après l'expulser. C'est sûr que ça aurait été préférable d'avoir une discussion au préalable puis de dire « Écoutez, je respecte votre opinion. Vous faites des constats. » Je pense que c'est des constats qui sont partagés par plusieurs commerçants du quartier et tout ça. Mais vous comprenez qu'il y a certains éléments dans ce que vous dites qui ne sont pas conformes aux valeurs qu'on veut véhiculer comme équipe. D'ailleurs, c'est ce que M. Hamad a dit. Le vocabulaire de M. Wu ne correspond pas à nos attentes, ne correspond pas à nos valeurs. On le voyait tout de suite dans le visage de sa maman de la semaine passée en point de presse.
Oui. Ben d'ailleurs, j'ai écouté le reportage d'Olivier Lemieux sur Radio-Canada et clairement, Napoléon Wu parle, tu vois la face de sa mamade changer et sa mamade s'interpose pour venir tempérer. Donc, déjà là, moi, je me disais, le mariage est fini. Là.
C'est terminé. Puis sa mamade disait, je pense que ce que M. Wu veut dire, c'est ça. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit. Puis non. À part de ça, on a eu la preuve que c'est vraiment ça qu'il disait. Les paroles qu'il a dites en point de presse sont les mêmes qu'il a répétées en tournée d'entrevue aujourd'hui. Donc, je pense pas que M. Wu avait caché ça là, avant. Là. S'il y a quelqu'un qui a pris le temps de lui parler avant, c'est ça ce qu'il pense.
Bien, Stéphanie Martin a fait un excellent article justement dans le Journal de Québec hier où elle est allée rechercher ses déclarations de 2023. Et en 2023, il dit, puis là, tu sais, j'ai pas les mots exacts, là, je l'ai pas devant moi, mais dans le fond, ce qu'il dit, c'est on va prendre les itinérants, on va les envoyer se désintoxiquer dans la vieille centrale de police qui est remplie de rats, de coquerelles, et etc. Ben oui. Là. Puis comme ça, ils traîneront plus dans la rue. C'est ça qu'il dit.
Bon, c'est ça. C'est des solutions qui ne sont pas nécessairement réalistes, mais ce qui est grave aussi, c'est vraiment les propos qui viennent renforcer les préjugés. Parce
vraiment.
Que moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de débat ici. Le premier niveau de débat, c'est de reconnaître que c'est une problématique. Il y a des gens qui ne reconnaissent même pas, qui ne veulent même pas qu'on en parle, j'ai l'impression. Puis ça, je l'entends souvent, puis il faut le dire, de personnes plus à gauche, plus qui se disent progressistes, mais qui ne veulent pas qu'on parle de ça, puis qui disent il faut cohabiter. C'est de l'intolérance de parler qu'on veut réduire l'itinérance dans les rues. Là, je caricature.
Non, et ça, honnêtement, moi, je fais une critique à l'administration Marchand et à Pierre-Luc Lachance, qui était le conseiller de Saint-Roch-Saint-Sauveur, qui, pendant pratiquement un an, on dit faut pas en parler parce que le monde ne viendra plus à Saint-Roch. Oui, mais c'est parce que ça existe.
Ça marche pas de même, la vie. Là.
C'est ça.
Il faut en parler. Je pense qu'il y a personne qui doit être censuré, qui doit se censurer. Par contre, après, ben, il y a le débat sur le niveau de compréhension de ce que c'est l'itinérance. Parce qu'il y a plusieurs choses aussi qui se mélangent à ça, notamment la toxicomanie, la santé mentale. C'est un sujet qui est complexe. Moi, c'est sûr qu'une personne qui arrive qui dit « Voulez-vous que je la donne, moi, la solution? » J'ai toujours un petit doute.
Il n'y en a pas de la solution.
Non, ça saurait là, s'il y avait la solution. Puis les solutions simplistes, comme envoyer tout le monde dans un grand building à quelque part, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a ces constats-là, puis ces propos-là, puis le niveau de vocabulaire aussi qui est choisi. Quand on dit « les gens ne meurent pas de faim, ils ont des grosses bedaines », moi, j'ai entendu M. Wu dire ça, les gens sont... les itinérants, ils ont des bedaines, ils sont bien nourris. Excuse-moi, là, mais ça, c'est aussi... On vient renforcer un autre préjugé, c'est que la pauvreté égale maigreur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Je veux juste vous dire, si vous mangez juste des cochonneries, puis vous en mangez, vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup, ça se peut, selon votre métabolisme, peu importe.
On a été martelés d'images de petits Africains avec le ventre super gonflé là, dans les pubs télé, mais c'est des gens malnutris. Là.
Donc, de toute façon, je veux dire, il ne connaît pas ça, il n'est pas médecin, il parle à travers son chapeau, puis il vient renforcer un préjugé que, finalement, il mange très bien à leur faim, que c'est comme un resort, dans le fond, être un itinérant à Québec. Puis c'est ça qui est venu déranger. Et après ça, il y a le débat sur les solutions qu'on devrait apporter à tout ça. Et là, ben les solutions, moi, je pense pas qu'il y ait personne qui a la solution, mais c'est vrai qu'il faut avoir une discussion sur la meilleure approche. Il faut se demander c'est quoi le rôle des policiers. Il faut se demander si on accepte aussi de faire certaines opérations, certaines mesures sur nos artères commerciales. Parce que j'entends M. Marchand, par exemple, qui dit « ben là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on les déporte à l'extérieur de la ville? Ça fonctionne pas comme ça. » Non, mais est-ce qu'on peut avoir une discussion sur comment on gère ça? Quand vous allez dans des villes touristiques ailleurs dans le monde, comment c'est géré? Est-ce qu'il y a des personnes désorganisées qui viennent vous déranger pendant que vous visitez la ville? Comment on peut gérer ça de manière humaine aussi? Comment on cohabite avec les organismes aussi qui sont sur place? Parce que tu peux avoir un organisme qui est dans un quartier, mais dépendamment comment c'est géré par l'organisme, ça va avoir un impact sur les résidents autour. Des fois, c'est mieux géré, des fois, c'est moins bien géré. Donc, toutes ces solutions-là, c'est ça qu'on veut entendre aussi de la part des équipes de campagne, mais aussi de la part des gens qui sont dans le quartier. Si on fait juste dire que ça n'a pas de bon sens puis que l'administration ne fait rien de correct, on n'avance pas dans le débat. Là.
Exactement. Il y a Pierre-Luc qui nous écrit « Les pays scandinaves, ça fonctionne très bien, en effet. » Puis c'est une solution, et ça, c'est Éric Boulay qui me l'a expliqué, le directeur général de l'Aube-Rivière. C'est une solution à plusieurs plateaux au niveau scandinave. On les accompagne en premier lieu, comme le projet Porte-Clé fait ici à Québec. On les sort de leur dépendance, on les met dans un logement, on les accompagne pendant un an, réinsertion à l'emploi, et là, ces gens-là volent de leurs propres ailes. Et ça prendrait justement plus de projets comme ça à Québec. C'est ce qui manque. Manque d'espace. Le répit Basseville, présentement, manque d'espace. Fait des demandes au niveau gouvernemental. Tente d'aller chercher de l'argent privé pour avoir des locaux plus pérennes. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Si eux avaient plus d'espace, il y aurait moins d'itinérance lourde dans la rue à l'heure actuelle. Et c'est le programme qui le suivrait. Justement, parlant là, de préjugés véhiculés par M. Wu, on écoute l'un de ces préjugés aujourd'hui et ma réaction peut-être un petit peu émotive.
Moi, je voulais qu'Edmond sache que ce qui se passe à Saint-Roch.
Ouais.
Qu'il y a une culture d'itinérance, l'industrie de l'itinérance, où ils profitent de ces gens-là, puis ils font de l'argent avec ces gens-là.
Et pourtant, la plupart des gens qui travaillent pour ces, ces organismes-là, c'est pas des gens qui gagnent énormément, vous le savez. C'est des gens de cœur, là.
Les gens de cœur, c'est des grunts là, qui travaillent sur le terrain, là. T'as des directeurs puis des assistants directeurs, là. Puis ils gagnent tout. Ils sont supposés exposer le salaire. Vous avez juste à regarder ça.
Je me permets juste un commentaire. Donc, pour vous, Éric Boulay, qui est directeur de la maison L'Aube-Rivière... Il gagne trop cher, puis c'est pas une bonne personne, travaille pas pour les gens d'itinérance, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Non, non, je sais pas c'est quoi le salaire d'Éric, là, mais je parle des organismes là, plus petits, là. OK. Éric, il a fait ses preuves.
Donc, les organismes communautaires travaillent pas pour l'itinérance, ils travaillent contre l'itinérance pour pouvoir continuer à avoir des subventions. Oui, parce que moi, je viens du domaine communautaire, là. C'est ça quoi, existe le... pas, ce que vous dites, c'est... là.
Oui, oui, ça existe. Vous ça avez existe juste à regarder dans le
zone. Non, 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 ça existe là. Pas, ce que vous dites, monsieur. Oui, il y a plusieurs préjugés là-dedans qui, je vais l'avouer, là, qui sont venus me chercher. Le premier, c'est au niveau des dirigeants d'organismes communautaires. Honnêtement, là, tu sais, je les connais, les salaires des dirigeants des organismes communautaires. J'ai été dans le CA d'un projet, justement, qui avait pour but de prendre soin des travailleurs qui travaillent dans le communautaire. Il n'y en a pas un dans Saint-Roch qui gagne au-dessus de 100 000 piastres.
Ben, en tout cas, s'il y avait moyen de faire fortune dans les organismes communautaires, ça se saurait. À un moment donné, il y a quelqu'un à quelque part dans un organisme qui a été beaucoup payé puis qui travaille? Sûrement là, qu'on peut trouver un exemple. Sauf que je pense que le constat le plus répandu et qui est le plus proche de la réalité, c'est de dire que les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, ils ne font pas fortune, ils travaillent très, très fort dans un milieu qui n'est pas facile. Moi, je vous dis, je ne ferais pas ça dans
la vie. Vocation, okay?
C'est une vocation. Ouais. Donc, c'est vraiment dommage, ces propos-là de M. Wu, parce qu'en plus, il y a certains constats qu'il fait. Son écœurement, je le comprends.
Oui.
Mais de s'attaquer aux organismes, ça, je ne le comprends pas.
En effet.
C'est la mauvaise cible.
Ben oui, parce que c'est... S'il y a bien des gens qui peuvent t'aider à régler ta problématique dans la rue, c'est les organismes communautaires.
Hey, c'est les bras et les jambes qui vont nous aider à passer à travers cette crise-là. Donc, ça ne sert absolument rien de les attaquer. Puis quand ils répètent constamment ce mot « culture de l'itinérance
ouais. »,
et ça, là, c'est, je trouve que c'est parmi les termes les plus dommageables qu'ils utilisent, parce que c'est vraiment, on vient porter des intentions, prêter des intentions aux gens, comme s'il y avait comme un vaste complot. Puis il parle d'une industrie.
Que l'on fait exprès pour laisser du monde dans la rue pour avoir des jobs.
Non, mais je veux dire, c'est complètement... c'est complètement...
Exactement. Risqué. Nadine, quand j'entends les propos de M. Wu, je suis outré à l'entendre. C'est facile de sortir les itinérants de la rue. Certaines personnes, depuis leur plus jeune âge, n'ont jamais eu de structure de parents qui les ont aidés. Ils ne font confiance à personne. Ce n'est pas facile de les aider à s'en sortir. Tu as tellement raison, Nadine. Le directeur général de la maison Dauphine, lorsqu'on l'a eu en entrevue l'an passé, nous dit disait ça, qu'ils trouvaient des logements pour les gens de la maison Dauphine où on acceptait les animaux parce que la seule personne en qui ils font confiance, c'est leur chien.
Ben oui, souvent, ça peut être une limitation des fois pour se trouver un logement. Mm. Ce n'est pas facile de sortir quelqu'un de la rue et ce n'est pas facile de sortir quelqu'un de la toxicomanie.
Clairement,
d'ailleurs,
non.
Là, on en fait un grand débat autour de l'élection municipale, mais il y a beaucoup de tout ça qui est... Je pense qu'il y a pas mal de clés qui sont dans le système de santé. Ça, c'est pas nécessairement la municipalité, il y a de la coordination à faire. Mais notre lutte à la toxicomanie au Québec, il y a quand même encore du chemin à faire.
Clairement.
Juste dans la manière qu'on a des fois de stigmatiser ces personnes-là, de pas nécessairement les accueillir comme si elles avaient besoin d'un soin de santé. santé. Hein, on les traite beaucoup comme des criminels, des fois. Puis des fois, ils font des gestes criminels aussi, mais il faut être capable de faire la part des choses. Des personnes, des ex-toxicomanes peuvent vous en parler, comment ils ont été accueillis quand ils ont essayé de rentrer dans le système de santé. C'est pas toujours très, très positivement. On a du chemin à faire aussi à ce niveau-là.
Exactement. Un autre bon commentaire ici, j'ajouterais que le CIUS, qui est directement impliqué dans l'itinérance, devrait repenser leur manière de travailler. Le CIUS et la ville ont tendance à ajouter des couches sans se questionner. Ça, c'est tellement vrai. Je l'ai dit ce matin lors de l'entrevue, c'est un point que j'ai donné à M. Campagna, de dire, vous avez raison, au niveau gouvernemental, provincial, on ajoute des couches. Santé Québec en est un bel exemple. Ça, moi, je trouve que le commentaire est très approprié.
Très approprié. Puis ça nous rappelle aussi à quel point les organismes communautaires font un travail qui est extraordinaire, à moindre coût, des fois aussi, que le système de santé. Il y a vraiment un partage de responsabilités à faire. Des fois, on dit, oh, les organismes communautaires, il y en a trop. M. Wood disait, ils se dédoublent. Mais c'est parce que c'est des organismes qui s'articulent autour de besoins du terrain.
Exactement.
Alors que la bureaucratie provinciale, le système de santé, bien là, on fonctionne en direction, en programme, en, tu sais, c'est pas toujours agile non plus. Donc, il y a vraiment un travail de collaboration
clairement
à faire. Puis, il faut toujours se redemander, est-ce qu'on est vraiment dans la manière la plus efficace de fonctionner? Puis ça, je vais le donner à M. Wu, puis à sa maman, puis à tout ça. Il part un débat quand même.
Clairement.
J'espère qu'on va utiliser cette opportunité-là pour peut-être apporter des solutions qui vont améliorer les choses.
On conclut ce débat-là avec un excellent commentaire. Bonjour à vous deux. Comment on peut se loger avec un chèque de BS au prix que les loyers sont pas faisables de se loger? La vie d'un itinérant n'est pas facile et très dure sur l'ego. Une bonne raison de se geler le cerveau. En effet, il y a de la dépendance à la drogue, malheureusement, qui débute avec l'itinérance. Et l'itinérance, des fois, peut débuter avec une perte d'emploi, une séparation, un moment X dans ta vie
une
qui fait
maladie
en sorte que tu perds. Oui, une maladie mentale aussi.
J'avais consulté
aussi
ces gens-là à l'Aubrevière, puis quand j'avais fait le Vox Pop, les gens étaient sans dessus-dessous, puis moi-même. Quand tu te dis, je suis tombée malade, j'avais pas assez d'assurance, après, c'est suivi une séparation parce que le problème financier a détruit la famille. Je me suis séparée, ça a ajouté encore plus de difficultés. Mes enfants ne me parlent plus, je suis tombée dans le conso.
Non, en effet.
Mais on retient juste la conso du parcours.
T'as entièrement raison. Je termine sur M. Wu, Antonine. Je veux te faire entendre sa citation sur les médias.
La vérité, c'est que j'étais comme écœuré, là. J'étais tanné des médias, là. Des médias qui n'arrêtent pas d'être tapés sur nous autres, là. Sur tout ce que je dis. Tu sais, je suis souvent mal cité. Ils disent pas des vraies affaires. C'est Journal de Québec, puis toute la gang, Karine Gagnon, puis toute cette gang-là, il dit pas la vérité.
Je suis tanné, moi, qu'un politicien dise « Ah, les médias, les médias! » Sois bon, et les médias vont être bons.
Puis les médias l'ont accueilli, et lui ont laissé aussi l'occasion de passer son message. Fait que tu peux pas juste dire « ben laissez-moi parler, puis passer mon message, puis après ça, être en désaccord quand il y a un débat. » Puis moi, ça me fait rire. Ils disent pas la vérité, OK? Factuellement, quel mensonge a été dit dans les médias récemment?
Rien. On a repris ces posts Facebook qu'on les a mis dans les médias.
Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que vous dites, autant chez les citoyens que chez les commentateurs dans les médias. Donc, mais il y a des gens qui écrivent puis qui sont d'accord avec M. Wu aussi. Mais ça fait partie de la vie. Des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, M. Wu, c'est pas les médias. C'est juste ça. Un reflet de la société.
Exactement. Puis il y a un excellent commentaire ici. C'est la vie que j'ai vécue pendant 5 ans. Même les organismes ont leurs problèmes. J'ai travaillé quelques années au communautaire. Les subventions sont souvent liées à des projets ultra précis. Et ça, là, c'est tellement l'enfer.
On l'entend tout le temps, ça.
Parce que tu voudrais être financé à ta mission. Puis là, les besoins de base de ta mission augmentent. Je vais te donner l'exemple, Patro Charlebourg, aide alimentaire. Avec la COVID, on a triplé le monde qui a besoin d'aide alimentaire. Mais là, il faut que j'invente un programme pour aller chercher de l'argent, pour l'accrocher à mon aide alimentaire. Ah, oh, la paperasse.
Oui, tu prends tout ton temps à faire de l'administratif. Puis tout le temps que tu mets à faire ça, ben, tu ne le mets pas à donner des services, finalement, à tes clientèles. Puis, il faut encore saluer. Encore une fois, il faut saluer à quel point les organismes communautaires jouent un rôle qui est important parce qu'ils ont l'agilité, justement. Il arrive une crise, puis tu as des organismes comme ça qui ont cette agilité-là de répondre aux besoins que, des fois, la machine gouvernementale n'a même pas la possibilité de faire aussi efficacement. Puis là, on les ensevelit sous de la paperasse, il faut qu'ils justifient chaque dollar. C'est important, c'est des deniers publics. Mm-hmm. Mais à un moment donné, est-ce que ça ne devient pas contre-productif alors qu'on devrait laisser ces gens-là travailler avec leurs clients?
C'est-tu un genre de... Je peux agir comme si je suis au privé, mais à la portion aussi gouvernementale, vu les subventions qui m'enquilosent un peu dans mon travail?
Bien, en fait, c'est qu'on devrait prendre les qualités du privé pour les OBNL, les organismes, parce que cette agilité-là est plus présente, mais on leur donne les désavantages du public vu que c'est de l'argent public. Donc, je pense qu'il faut juste arrêter de sortir. Il faut se sortir, en fait, de ce carcan gouvernemental où on essaye de mettre la pensée fonctionnaire, ministère, à des organismes. Ça ne s'applique pas toujours. Puis le financement au projet, c'est correct qu'il y en ait un peu. Mais ça ne peut pas être que ça, à un moment donné. Puis il faut comprendre aussi que tu vas avoir un meilleur retour sur investissement des fois quand tu fais du financement à la municipalité.
On parle de guéguerre ici politique à Québec, mais à Montréal aussi, il y en a toute une, Antonine. Et je te lis justement ce que Valérie Plante a dit hier sur Craig Sauvé. « Monsieur Sauvé a tenté jusqu'à la dernière minute de revenir dans le caucus de Projet Montréal », a déclaré la mairesse en marge d'une annonce justement sur l'itinérance. « Le problème, c'est que ce n'est pas possible pour le parti étant donné l'allégation d'agression sexuelle qui a pesé sur M. Sauvé ces dernières années. » Là, Craig Sauvé est en train de mettre à mal l'ancien parti de Valérie Plante, et puis c'est Luc Rabouin qui est pogné avec ça. Là.
OK. Petit topo là, de l'élection municipale à Montréal. Luc Rabouin a repris le flambeau de Projet Montréal, se présente à la succession de... Bon, en fait, il est le successeur de Valérie Plante, mais se présente maintenant pour devenir le maire de Montréal. Craig Sauvé, c'est un ancien de Projet Montréal. Puis c'est vrai qu'il y a eu des allégations d'agression sexuelle, mais il n'y a pas eu de suite à tout ça.
Il n'a pas été reconnu coupable, il n'a même pas été accusé.
Et il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Donc, après ça, je laisse aux gens se faire leur propre opinion autour de ça. Là, j'ai vu notamment une publication de Luc Ferrandez, ancien de Projet Montréal aussi, qui le soutient à 100% dans tout ça. Bon, il y a des gens qui s'en sont mêlés. Mais cette attaque-là de Valérie Plante envers Craig Sauvé, pourquoi elle l'a fait à ce moment-ci? C'est qu'il y a pas mal de gens de Projet Montréal. Une fois que Craig Sauvé a lancé sa campagne à lui avec son nouveau parti Transition Montréal, il y a des gens qui étaient dans Projet Montréal qui ont décidé de suivre Craig Sauvé. Donc là, il y a eu un petit exode. Certaines personnes, dont la directrice de campagne de Luc Rabouin, qui a décidé d'aller avec Craig Sauvé.
C'est vrai.
Alors, c'est un peu la panique à bord. Et ce genre d'attaque-là, mais c'est une attaque qui est plus personnelle, on s'entend. On n'est pas sur les idées, on n'est pas sur la vision de Craig Sauvé pour la ville de Montréal. Je ne suis pas convaincue de l'efficacité de cette stratégie-là. Premièrement, parce que ça fait un peu cheap, puis peut avoir un effet boomerang, puis on le ressent déjà un peu beaucoup. Mais aussi, ça donne énormément d'importance à Craig Sauvé, qui était un peu le troisième joueur dans cette course-là. Puis Soraya Martinez, qui est la chef d'Ensemble Montréal et qui aspire aussi à devenir mairesse pendant ce temps-là, elle doit être morte de rire chez elle.
Bien, dans le fond, ce qui se passe à Montréal, c'est comme ce qui se passe à Québec. À Québec, Sam Hamad se chicane avec Stéphane Lachance. Donc, Bruno Marchand est assis dans le siège du conducteur puis il est mort de rire.
Et puis attends, Claude Villeneuve attaque Sam Hamad aussi.
C'est ça, exactement.
Tout le monde s'attaque.
Soraya Martinez, c'est la même chose. Elle est assise. Chicanez-vous, les amis. Partagez-vous le vote. C'est moi qui va rentrer. Soraya Martinez, je la connais pas beaucoup, mais est-ce que ça serait une bonne candidate pour être mairesse de Montréal?
En fait, c'est une ancienne ministre fédérale. Elle était députée d'Hochelaga au palier fédéral. Elle est devenue ministre assez tardivement là, pendant les mandats de Justin Trudeau, ministre du Tourisme, Développement économique. C'était une députée extrêmement appréciée, même par des gens qui ne sont pas des libéraux à Montréal. Donc, les acteurs clés économiques et dans le domaine du tourisme l'appréciaient beaucoup, bonne réputation. Donc, c'est une candidature qui est sérieuse, somme toute. Puis, elle arrive dans un moment aussi qui est bien particulier parce que Valérie Plante quitte. Donc là, on est à la croisée des chemins. Luc Rabouin n'a pas tout à fait la même envergure, j'ai envie de dire, le même charisme
c'est
que Valérie Plante.
C'est beaucoup peintureux aussi en étant le maire du plateau Mont-Royal.
Ben, c'est ça. Donc, il y a tout ça. Puis on sent aussi, tu sais, de manière plus globale dans notre société, une certaine fatigue de la gauche en ce moment.
Oui.
C'est moins à la mode. Okay? L'environnement, c'est moins à la mode. Ma chronique de ce matin, d'ailleurs, sur Nouveau Info parle de ça.
C'est-tu depuis le contexte économique bouillant?
Ben, c'est avec la crise commerciale. Évidemment, au palier fédéral mène la charge. Là, on est dans les pipelines, puis on enlève des lois environnementales, puis on annule la taxe carbone. Donc, il y a une opportunité quand même pour Soraya Martinez qui, sans être nécessairement une candidate à la mairie de droite, à la rive du PLC puis du Justin Trudeau, là, on ne se fera pas à croire qu'elle est à droite, mais elle a laissé entendre, c'est par exemple, peut-être qu'on pourrait se calmer les nerfs sur les pistes cyclables.
Ouais,
elle a fait une espèce de chant de sirène là, pour attirer les gens qui sont écœurés en fait, de projet Montréal. Donc, on verra. La campagne à Montréal, ce qui la caractérise beaucoup aussi, c'est que les gens ne connaissent pas les candidats. En fait, cette campagne-là a démarré, puis j'ai vu plusieurs vox pop. Là. Les journalistes se promènent dans les rues, puis c'est qui les candidats à la mairie? Puis les gens sont comme, il y a la fille, là!
C'est rafraîchissant, tu penses, en politique? Ou c'est plus handicapant en ce moment?
En fait, quand t'as pas de notoriété dans une ville aussi importante que Montréal, moi, je pense que ça démontre... En fait, ça dit rien sur les candidats. Ça dit quelque chose, je trouve, sur l'état de la démocratie municipale puis le niveau d'intérêt aussi de la population. C'est pas vrai que tout le monde connaît les politiciens non plus dans la rue. Là, faut pas se compter.
L'état de notre métropole aussi. Au Saguenay, André Laforêt se présente comme indépendante. Puis ça, c'est le rêve de plusieurs personnes ici à Québec de dire un maire indépendant, il y a pas de ligne de parti, il va être obligé de travailler en coalition. Moi, je suis de l'autre école, que j'aime bien ça qu'il y ait des partis politiques avec des lignes claires, des plans de partis clairs, parce qu'après ça, je peux juger s'ils ont tenu leurs promesses ou non, puis au moins quand je vote, je sais pourquoi je vote.
Ouais, parce que quand on se présente comme ça, comme indépendant, on y va un peu plus autour de notre personnalité, notre notoriété. Mm-hmm. André Laforêt, elle a des bonnes chances de l'emporter en passant, là. C'est une personne qui a une grande notoriété. Elle était ministre régionale et elle était ministre des Affaires municipales. Puis elle a fait beaucoup de choses pour sa région là, pendant qu'elle était ministre, ministre responsable.
Puis Lambert Drainville nous disait dernièrement qu'il avait fait le tour du Saguenay avec, puis il disait « Écoute, c'est la reine du
Saguenay. » Oui, c'est sûr. Elle a un avantage non négligeable sur ses adversaires. Elle était ministre responsable de la région. Elle pouvait donner des nananes aussi à tout le monde. Il ne faut pas se compter d'histoire. Ça doit faire un petit moment là, qu'elle réfléchissait à aller à la mairie. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien. Cela dit, à Saguenay, c'est une situation qui est spéciale aussi parce que la mairesse actuelle est dans des démêlés judiciaires. Elle a fait appel, a été reconnue coupable d'un crime et elle a fait appel. Donc, elle se présente quand même. Il y a vraiment une occasion sans précédent là, pour André Laforêt. Le timing est vraiment bon. Mais c'est vrai que se présenter comme indépendant, comme quand tu es une personnalité comme celle-là, bien, c'est facile. Mais après, il faut que tu sois en mesure d'aller chercher des conseillers municipaux de ton bord. Parce qu'on en a vu des conseillers municipaux complètement dysfonctionnels. Là, je fais le lien avec une autre municipalité à surveiller pour cette élection. Absolument, pour l'élection municipale, Sherbrooke. Donc, la mairesse, Evelyne Baudin, ne se représente pas. Elle a eu un mandat qui a été extrêmement difficile avec un conseil municipal dysfonctionnel. Elle avait beaucoup de difficultés à aller chercher l'aval des conseillers municipaux. Puis pourtant, elle en avait... elle avait un parti, Evelyne Baudin, mais ça a été extrêmement difficile. Puis je fais un comparatif avec Gatineau parce que l'ancienne mairesse France Bellil, quand elle a démissionné, bien ça, c'en était une mairesse indépendante qui n'avait pas d'équipe autour d'elle puis qui a trouvé ça extrêmement difficile après d'essayer d'aller chercher l'aval de ses conseillers. Elle n'avait aucune emprise, dans le fond, sur son conseil municipal. Et au municipal, c'est pas comme au provincial. C'est-à-dire que c'est pas toi qui choisis ton conseil des ministres.
Non, c'est ça.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si t'as pas une majorité des conseillers qui sont de ton bord, bien, ça peut devenir extrêmement compliqué de passer tes politiques. Donc, le passage d'Evelyne Baudin à Sherbrooke, ça a été un peu compliqué. Et là, il y a l'ancienne ministre. Les anciens ministres fédéraux se recyclent en politique municipale. Les provinciaux aussi, d'ailleurs. Marie-Claude Bibeau, qui a été ministre de l'Agriculture, notamment, sous le gouvernement Trudeau, qui fait campagne en attaquant le style d'Evelyne Baudin, en disant « Nous, là, on va pas être dans la chicane, là, ça va bien se passer, mais c'est une attaque envers Evelyne Baudin.
Ça, c'est tous des gens et des politiciennes qui avaient quitté quand le feu était pris dans le PLC.
Ils ont peut-être regretté un petit peu après.
Ça, avec Mark Carney. On termine le caucus Iacarini à peu près en 2 minutes avec cette annonce pour le moins invraisemblable.
The meteoric rise in autism is among the most alarming public health developments in history. There's never been anything like this. I want to say it like it is. Don't take Tylenol. Don't take it if you just can't. I mean, it's fight like hell not to take it. There may be a point where you have to, and that you have to work out with yourself. So don't take Tylenol.
Surréaliste.
Ça n'a pas de sens ce qui se passe en santé aux États-Unis. T'es en Floride, plus besoin de vacciner le monde. Il n'y en a pas de problème.
Ça aussi, ça donne l'autisme. Hein, ça.
Le vaccin, oui. Ouais,
je suis sarcastique
ça,
en passant.
Non, ça n'a plus de sens ce qui se passe. Tu sais, peut-être en une minute, Antonine, comment tu trouves la situation? Parce que c'est très préoccupant. Ça reste qu'on a une méchante grande frontière avec les États-Unis.
Les décisions des États-Unis en santé nous touchent. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les virus, notamment, ils reconnaissent pas les frontières. Il ne faut pas demander d'asile en arrivant.
Le dernier qui est arrivé partait de la Chine, on se souvient.
Ouais. On se souvient, puis c'est allé assez vite. Je ne vais pas tomber dans les aspects médicaux. Puis, de toute façon, vous avez une entrevue un petit peu plus tard dans l'émission.
Oui, on va parler avec Valérie Courchaigne, qui est chercheur au CIUS du nord de l'île de Montréal et professeur à l'Université de Montréal.
Mais d'un point de vue politique, Cette conférence de presse-là, à mon avis, était la plus surréaliste, puis Dieu sait qu'il y a de la compétition du côté de Trump, du président américain depuis son retour à la Maison-Blanche, complètement surréaliste. Son ministre de la Santé, son secrétaire à la Santé, qu'on appelle amicalement RFK, M. Kennedy, qui s'intéresse aux questions de l'autisme depuis longtemps. Puis moi, ce que je me suis dit en écoutant ça, on faisait des liens directs. On disait, tu sais, les pays dans lesquels ils ne prennent pas de Tylenol, il n'y en a pas d'autisme. OK, moi, je sais pas pour vous, mais première année de cégep, méthode quantitative, on apprenait les faux liens de causalité. Là. C'est exactement ça à quoi ça me faisait penser. Puis l'exemple que le prof nous avait donné à l'époque, c'était, par exemple, tu dis, ah, dans cette région-ci, les taux de natalité est plus élevé. Mais il y a plus de cigognes dans cette région-là, donc... ce sont les cigognes qui font en sorte qu'il y ait plus de taux de natalité. Puis là, tu apprends qu'il y a un autre facteur qui est que, dans le fond, tu es dans une région rurale, donc il y a plus de cigognes, et c'est ça, dans le fond, ton vrai facteur pour l'autisme. Bref, tu apprends ça, tu as 17 ans. Et là, j'écoutais le point de presse et je me disais, mon Dieu, mais on n'a plus aucun respect pour la science dans ce pays-là. Je veux juste vous attirer votre attention sur un petit angle mort, on en parle un peu moins. Mais quand Donald Trump sort pour en fait, là, il vient de faire crasher l'action de Tylenol.
OK. Donc, quel est son but économique?
Ben, disons qu'il joue beaucoup avec les marchés boursiers. C'est le moins qu'on puisse dire. Il fait monter des actions quand il décide qu'il dit oh, « Je pense que je vais investir là-dedans, moi. Je vais investir, moi, dans ce médicament-là. »
C'est une prétention de croire que...
Ben, écoute, je trouve qu'on joue beaucoup avec les marchés. Si vous regardez l'action de la compagnie qui fait Tylenol, vous allez voir qu'ils ont perdu énormément de points. À chaque fois que M. Trump fait une affaire de même, ça a des impacts boursiers importants. Puis juste... je ne veux pas faire un lien de causalité directe, mais vous dire que la fortune personnelle de M. Trump a augmenté de plusieurs milliards depuis le mois de janvier.
C'est très, très, très intéressant, même si ce n'est pas un lien de causalité directe.
Non, mais tu sais, moi, ça ne me dérange pas, mais laissons les experts parler de ça.
Oui, exactement.
Encore mieux. M. Trump, merci.
Merci, M. Trump.
Antonine Iaccarini, merci. On te réécoute, on se reparle demain à midi. Merci pour ta présence. On fait une courte pause par la suite. Joanie Fortin vient s'installer en studio. On va parler de ce très, 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 très beau défi du Kilimanjaro que Joanie et Pascal vont aller relever pour la Fondation Cerveau. Et Mylène Moisan sera au bout du fil par la suite pour nous parler d'une situation encore une fois problématique du côté de la DPJ. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée. 100% talk.
Ça s'appelle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi. Boulevard 102.1.
102.1.
Maintenant, 100% parler en semaine.
Le 2 octobre prochain sera marqué au fer rouge comme le plus gros combat de l'histoire des stations de radio à Québec.
Et on a besoin de vous autres. Avec l'aide des auditeurs de R2D2, James Hetfield, Spider-Man, Elton John, on va affronter les autres stations sur plus de 34 machines à boules à la Société du Pinball 999 Pierre-Bertrand.
Lors de cette soirée, la Société du Pinball va couronner une station de radio haute pour le Salon du Pinball qui va se dérouler du 25 au 26 octobre. Avec l'achat de ton billet, cours la chance de gagner une machine à boules d'une valeur de 10 000 $ offerte par la Société.
J'ai envie de vous parler d'Hébergement Rive-Nord parce que c'est une entreprise que j'ai le fier respect continuel envers elle. C'est une entreprise qui, pour moi, fait briller la région pour multiples raisons, entre autres par ses ressources intermédiaires. Enfin, il y en a 5. Puis dans ces ressources intermédiaires-là, donc une habitation, on héberge des résidents. Puis ces résidents-là ont une déficience intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme. Ça a été fondé en 2015. Puis c'est une équipe qui est bien implantée. C'est une équipe qui connaît les technologies, les innovations aussi pour améliorer la qualité de vie des résidents, puis la qualité des soins aussi pour eux. Donc, les bénéficiaires, là, on les appelle comme ça, mais je veux dire, c'est des gens qu'on côtoie au quotidien, ça devient des amis, ça devient des personnes où on est vraiment heureux d'en prendre soin puis de faire un changement au quotidien dans leur vie. C'est des gens qui habitent là, hein, donc les gens qui viennent travailler font le changement pour eux entre les murs. Puis ça pourrait être toi. Si tu as envie de faire partie de cette équipe passionnée-là, dynamique, d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance, des travailleurs sociaux ou encore toute autre personne qui veille au bien-être de ces résidents-là, bien, pense-y parce que tu vas travailler avec des gens comme toi, avec des collègues de travail qui ont la bienveillance à cœur, qui ont le souci du détail, du travail bien fait, puis assurément le souci du confort des gens qui les entourent à cœur. Alors, moi, je t'invite à aller faire un petit tour du côté du Facebook d'Hébergement Rive-Nord. Avec tout mon cœur, si tu as envie de changer de job, là, puis tu cherches un endroit où ta vie va changer et tu vas changer la vie des autres, Hébergement Rive-Nord.
On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin, Pascal CV pour nous joindre. 418-971-1021, c'est la meilleure façon de le faire. Et faut absolument, parce qu'on vient de terminer un petit débat sur l'itinérance, il faut absolument que je lise la fin du texto de JP. JP qui nous expliquait que l'itinérance peut venir même dans des bonnes familles, familles de 5 enfants, des parents aimants, tout ça, mais malheureusement, il y a un frère qui est tombé dans l'itinérance après justement des mauvaises fréquentations et des problèmes de toxicomanie. Mm-hmm. Et il dit, on a appris à vivre sans recevoir de ces nouvelles, mais tiens, voilà 2 semaines, on l'a vu aux nouvelles. Il est dans l'équipe de nettoyage de Saint-Roch.
Wow!
Les intervenants sont essentiels, et là, il l'écrit en lettres majuscules. Seuls eux ont les moyens et l'expertise pour les comprendre et les aider. Là où la famille a échoué, jamais je ne mettrai en doute leur travail. Sans eux, mon frère serait encore dans un fond de ruelle à chercher quoi faire de ses journées. Merci, JP.
Ouf, que c'est touchant, ça. Puis quel partage, hein? Il n'était pas obligé de nous l'écrire.
Non, il n'était pas obligé de nous l'écrire. Vous êtes exceptionnels, les auditeurs, merci. Quand vous nous écrivez
JP, je te réponds personnellement à l'instant. Je trouve que ça vaut la peine. Je réponds pour Jeff aussi.
Mais, parlant de personnes exceptionnelles, j'en ai deux devant moi. Pascal Sévet, avec qui j'ai le bonheur de travailler à chaque jour, et Joannie Fortin, que j'ai le bonheur de croiser chaque matin dans les bureaux de Weekend Radio. Comment ça va, Jo?
Ça va bien.
Good. Alors, Jo, on t'a invité pour parler du défi Kilimanjaro. Mm. Toi et Pascal, vous allez aller monter cette montagne pour la Fondation Cerveau. Avant de vous demander comment vous sentez, tout le kit, rappelez-moi donc, Fondation Cerveau, pourquoi vous le faites? Vous avez combien d'argent amassé?
Bon, la montagne du Kilimanjaro, c'est bien peu à travers tout ce qu'on a fait dans les derniers mois, dans le sens où ça part d'une initiative de Marc-Antoine Reed. Ici, il fait de la chronique financière avec vous. Il est passé ce matin, justement, ou hier.
Il est passé ce matin. Hein? Il était nerveux. Ce matin.
Comment il va?
Ben, c'est ça, il était nerveux. Puis là, je sens que vous avez une once de nervosité.
On t'en parlera. Puis il a commencé avec cette idée-là. Il a dit, crime, j'aimerais ça faire une différence dans le quotidien des gens de Québec ou encore dans le quotidien point des gens qui en ont besoin. Puis il s'est mis un peu plus fréquenter les gens de la Fondation Cerveau, qui est pan-canadiennement très reconnue, mondialement aussi, mais c'est ici. Dans le coin de Robert-Giffard, c'est un super beau complexe qu'on a construit il y a une couple d'années. C'est des scientifiques, des experts en la matière qui sont extrêmement heureux de travailler là parce qu'on a toute la technologie. Nous, on l'a visité il y a quelques mois. Puis honnêtement là, c'est on était stupéfaits d'à quel point on est chanceux. On va aller travailler sur tout ce qui est le cerveau en général. Donc, santé mentale, oui, du burn-out aux grandes dépressions, mais également à tout ce qui est maladie du cerveau, Alzheimer, Parkinson et autres. On veut trouver soit des façons de ralentir quand quelqu'un a une maladie, la propagation, ou encore de soulager, ou encore tout simplement d'amenuiser puis qu'on soit capable de traiter, guérir ces maladies-là.
C'est exceptionnel ce que vous faites, mesdames, pour cette fondation-là qui va justement traiter de la santé mentale. C'est tout simplement magique. Je vous pose la question, puis je vais commencer par toi, Joannie. Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que ce matin, moi, j'ai senti Marc-Antoine Reed nerveux.
Je suis extrêmement nerveuse de quitter. On quitte vendredi. Dans le fond, on prend l'avion vendredi. Comment te dire? Jeff, tu vas peut-être pouvoir me comprendre là-dessus. Ouais. Tu fais des accomplissements sportifs.
Mm-hmm.
Je me demandais pourquoi je me sentais comme ça dans les derniers jours. Et puis, j'ai réalisé que, dans le fond, je me sens comme ça à chaque fois que je fais un nouvel accomplissement sportif. Dans les jours qui ont précédé mon premier demi-marathon, c'est comme ça que je me sentais. Les jours qui ont précédé mon premier triathlon aussi, c'est comme ça que je me sens nerveuse. Remise en question, j'ai-tu fait ce qu'il fallait? Alors qu'il y a 2 semaines, je te disais, ouais, je suis prête, je suis en contrôle, tout est beau, la gang!
J'ai jamais été en forme de même! Ah ouais, il y a le Kilimanjaro, je m'en vais en haut!
Exact! Puis c'est vrai, j'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie, physiquement et mentalement, mais là, je suis dans la période qui, tu sais, qui vient avec. Je suis en stress aussi. Tu sais, moi, je veux dire, on quitte tous pour 3 semaines. Mm-hmm. J'ai ma petite fille de 3 ans et demi. Si c'est la première fois que je quitte aussi longtemps, il y a ce moment-là que j'appréhende et je me dis, Joannie, ça fait partie d'eux. Là, moi, je suis une fille qui est un peu contrôle freak dans la vie. Fait que j'aime ça bien me préparer. J'aime ça, tu sais, m'entraîner comme il faut, ce que j'ai fait dans les derniers mois. À partir de maintenant, là, je dois laisser aller.
Ouais,
là, je dois faire un lâcher prise, puis ça me rend un petit peu inconfortable.
Parce que t'es pas dans une zone que t'es habituellement, exactement.
Je suis pas en mode contrôle, fait que c'est comme ça que je me sens en ce moment. Mais je pense que cette aventure-là va amener beaucoup de lâcher prise aussi, puis là, j'embarque dans ce mood-là depuis quelques jours.
Pascal, même feeling?
je me trouve...
nonchalante dans mon feeling. Parce qu'il y a des jours où je me lève, je fais « Yes, OK, là, il faut que ça parte, ce voyage-là. » Ça fait un an qu'on en parle. Plus c'est long, plus la fébrilité monte. Puis parfois, je tombe dans comme le stress. Là. Hier, je pesais mes affaires, puis j'étais avec quelqu'un, puis je parlais, puis il me parlait, puis... Il me parle de yogourt dans le frigo, là, puis très honnêtement, j'étais non, je peux pas t'aider à le trouver. Faut que je garde mon focus. Fait que je retouchais mes vêtements, je redézippais mes affaires, je repesais. Puis ça me réconfortait, mais c'est comme ça que j'ai su que j'étais stressée, là. J'ai un stress.
Ouais, parlant là, de vêtements, bagages, tout ça, là, je t'ai vu arriver avec un petit kit sac à dos l'autre jour, le kit. Qu'est-ce que vous amenez là-bas? Comment ça fonctionne? Vous allez vous nourrir comment?
Bien, premièrement, t'as vu l'amour de ma vie, là, ce sac duffel bag qu'on appelle, qui ressemble à une grosse poche de hockey, qui est Yeti. Moi, je capote dessus. Elle peut être submersible là, pendant 30 minutes, puis il n'y a rien qui est mouillant dedans. Mais c'est ça que nos porteurs vont porter. Mm-hmm. C'est eux, les All-Stars, qui, honnêtement, c'est eux qui ont la majorité de notre stock sur leur dos. Ils font ça plusieurs fois par année. Ils sont acclimatés. Ce sont des dieux.
C'est des machines.
C'est des machines.
Ils sont nés en altitude. Fait que pour eux, l'altitude, ça n'a pas d'effet. T'sais, c'est des gens qui sont nés comme ça. C'est de père en fils. T'sais. Ils vivent, ils naissent, puis ils savent qu'ils vont devenir Sherpa dans la vie. Mm-hmm. Fait que pour eux, c'est facile. Puis effectivement, ils font toute la différence dans ce type de randonnée-là.
Puis là-dedans, la problématique du Kilimanjaro, c'est que tu pars à 34 degrés avec le soleil plombant, mais tu finis à moins 25 avec une tempête de neige où tu vois rien, il faut que tu aies des lunettes de ski.
Ça vous stresse-tu, ça, ce changement de température?
Zéro pied de bord pour moi.
Ah ouais, toi, Joanie?
Mais tu vois, lunettes de ski, j'ai même pas mis ça dans mon bagage. Non, je... Rendu là, c'est le défi sportif. Tu vois, ça va être la résilience, ça va être la persévérance puis la constance. Mais non, ça me stresse pas tant non plus.
Une fois que tu es bien habillé, puis c'est ça dans nos bagages, des sous-couches. Il a fallu investir beaucoup en vêtements techniques pour ceux qui n'en avaient pas ou autres. Ça va être d'avoir un manteau coupe-vent, une doudoune, l'enlever, mettre une laine de merino, l'enlever, être en short. Ça va être ça. C'est une multitude de choses qu'on apporte.
Mais moi, je te dirais que le stress, c'est le froid. Je suis très frileuse. J'ai les extrémités qui deviennent froides rapidement. Fait que ça, je te dirais que c'est mon gros stress.
La dernière nuit avant le sommeil.
En général, tu sais, je sais qu'à partir du moment où le soleil tombe, il se met à faire froid. Fait que là, il y a toutes ces zones de froideur-là que j'appréhende, mais c'est ça, encore une fois, ça va être de le vivre.
Moi, je vous trouve vraiment exceptionnel de relever ce défi-là, je veux vous le dire. Vous êtes deux filles clairement inspirantes à 100 millions de pourcents. Mais pourquoi vous êtes embarquées là-dedans?
Joanie?
Pourquoi? Parce que la Fondation Cerveau, je m'y implique depuis des années. Fait que déjà, pour moi, la Fondation n'était pas, c'était pas quelque chose qu'il fallait me vendre. C'était clair que c'est, pour moi, ça le faisait. Mais il y a un côté très égoïste dans ce voyage-là, je ne le cacherai pas.
Oui, donc.
Il y a de cela 2 ans, jour pour jour, moi, j'arrêtais de travailler dans l'émission du matin à week-end pour des soucis de santé. J'allais pas bien. J'étais au fond du baril. J'avais des symptômes de dépression. J'étais fatiguée. J'étais tout le temps malade. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Après ça, j'ai quitté ce mode de vie-là. On s'entend qu'un mode de matin, c'est un mode de vie. Pour me refaire une santé que je me suis refaite. L'année dernière, jour pour jour, je revenais dans l'émission du matin. Et un an plus tard, jour pour jour, je m'en vais atteindre le plus haut sommet d'Afrique. Pour moi, c'est
incroyable.
C'est le symbole de la victoire de ma santé. C'est vraiment ça, physique et mental. Puis je me dis que toute la résilience que j'ai eue à développer, toute la persévérance, puis tout le côté constant aussi que j'ai eu à développer avec la maladie, je pense que là, ça va me servir sur la montagne. Fait que c'est pour ça que je fais ce voyage-là. Ouais. C'est la raison. On dirait que c'est comme si là, je m'en vais récolter le fruit de tous mes efforts des dernières années.
C'est tellement beau, Joanie. Merci pour ce beau partage. Pascal CV, pourquoi tu fais ça?
Je demande à tout le monde autour de moi, ils ont fait comme « Ah, ouais! » Ah, OK. Une autre affaire. C'est ouais.
T'es une fille de projet, toi, CV.
Maman, moi, pour moi, me dit, vas-tu te calmer après? Ma sœur s'est retournée vers elle en disant, non, je pense pas. Elle va nous en sortir.
Ça fait partie de ta vie.
Ouais, puis ma sœur m'a dit, d'après moi, c'est une de trois. Il y a genre un pool dans la famille qui est parti sur ce genre d'aventure-là. Elle va le faire au moins 3 fois dans sa vie. Okay. Mais comment ça a été présenté, c'est vraiment pour la Fondation Cerveau.
Ouais.
Puis c'est super personnel ce que je vais faire, mais moi, j'ai eu à accompagner des gens dans des affaires épouvantables. Ma meilleure amie, que je considère comme une sœur, son père s'est suicidé il y a quelques années. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui dis?
Comment tu
l'accompagnes là-dedans? Ça a été extrêmement difficile parce que je voulais pas l'échapper, elle aussi. Puis la détresse, la tristesse a été honnêtement terrifiante. Puis elle m'a fait mal, puis j'ai voulu comprendre, puis j'ai voulu être là pour elle. Fait que ça a été un des épisodes.
L'homme avec qui je suis sortie 8 ans et demi a changé de comportement du tac au tac à un moment après 8 ans et demi de relation. Mettons, allons-y avec un 6 ans et demi. Mm-hmm. À rien comprendre.
Anxiété. À dire, voyons, qui est-il devenu?
Oui, puis je pensais que ça être le père de mes enfants, puis j'allais finir ma vie avec cet homme-là. Anxiété de performance, poum, ça arrive. C'est un gars qui il faisait le barreau au droit, jouait au foot universitaire, il travaillait comme journaliste la fin de semaine, il n'y avait pas de punch-in, punch-out, il n'y avait pas rien pour relaxer. Puis à un moment donné, ça l'a ramassé dans le détour. Puis je voyais des signes précurseurs, mais avant qu'on ait le diagnostic en santé mentale, la relation s'est effritée, j'en ai pris soin le plus possible, il prend soin, il est sorti de ça, il est exceptionnel maintenant, il suit encore un psychologue, mais... Ça a été un pan important de ma vie, ça aussi. Ça a détruit la relation amoureuse. C'est. Maintenant, il reste énormément d'affection. Ouais. Et par la suite, est arrivée une foulée de trucs. Des gens près de moi malades et tout ça. Moi, je me suis séparée d'un autre homme entre-temps. Mm-hmm. Puis c'est ma santé mentale qui en a écopé.
Ouais, je comprends.
Il y a plusieurs personnes qui en ont eu des échos. Puis c'est drôle parce que Marc, il venait me chercher à ce moment-là. Puis j'ai regardé, j'ai dit, Marc, c'est ironique, là. Mais je dois mettre un genou à terre pour la première fois puis te dire, je vais refuser un défi de même que j'aurais jamais refusé parce que je peux pas le faire.
Parce que je le file pas, ouais, je comprends.
Je peux pas le faire. Mm-hmm. Je me sentais plus assez forte. Quand d'habitude, je me pitche dans cette affaire-là sans me poser aucune question. Puis il est revenu un an plus tard, puis on est parti dans le projet.
Six fois à quel point, tu sais, la santé, quand tu l'as pas, t'as rien pantoute. Hein?
T'as rien.
La santé, c'est le plus précieux trésor que tu peux avoir dans ta vie. Si t'as la santé, t'as tout. Si t'as pas la santé, t'as rien.
Exact.
C'est ça que tu sais que moi j'ai réalisé beaucoup dans les dernières années et plus que jamais. Tu sais, je sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, je me dis à ce prix, j'ai retrouvé. Moi, je l'avais perdu la santé.
Je me suis retrouvée.
J'ai retrouvé la santé. Oui. Fait que je vais en profiter maintenant.
Puis là, c'est bon pour tout le monde ce qu'on s'en va faire. Exact. On ramasse de l'argent pour toi, ta sœur, ton frère, peu importe qui en a besoin. Des maladies du cerveau à la santé mentale. En termes d'études, moi, je pense qu'avec aussi le problème d'itinérance, tout est interrelié, honnêtement. Si ça t'arrive pas à toi, ça arrive, c'est sûr, à un de tes proches à un moment d'avoir besoin d'aide.
Mesdames, vous êtes exceptionnelles. Félicitations pour votre implication dans ce projet. Bravo, je suis sûr que vous allez réussir à atteindre le sommet.
T'es fin.
Appelez-nous avec le téléphone satellite.
On va vous appeler.
Dans les émissions du matin.
Oui, Joe fait ça à week-end. Ouais. Nous, on fait ça ici à Boulevard 102.
Dans Marceau le matin. On a tellement hâte d'avoir de vos nouvelles. Chapeau pour ce que vous faites. J'ai énormément d'admiration.
Sans douche, sans toilette. Joe et moi, on partage la tente.
C'est ça.
On a développé une certaine intimité.
On n'aura pas le choix. Et d'ailleurs, il y a plein d'auditeurs qui écrivent pour dire à quel point vous êtes exceptionnel. Et d'ailleurs, Claude André l'écrit en lettres majuscules et je suis très d'accord avec lui. Félicitations.
Merci.
Joe, merci d'être passé nous voir.
Avec plaisir.
Ouais, ça fait plaisir de jaser de ça avec toi. Je m'ennuie de m'entraîner avec toi sur l'heure du midi. Là, même, j'aime ça faire de la radio avec Pascal Cévin.
À partir du 15 octobre, on reprend ça. On retourne au gym.
Cool! Salut Joe, merci. Bye. On saute d'un sujet à l'autre. On va immédiatement aller rejoindre Mylène Moisan, excellente journaliste et chroniqueuse pour le journal Le Soleil. Elle est au bout du fil. Oh! Ça l'a raccroché malheureusement. Donc, on va tout simplement... Je crois que là, ça va fonctionner. Est-ce que Mylène, tu es là au bout du fil?
Oui, c'est ça, ça avait raccroché.
Ben oui, exactement. C'est mes gros doigts qui ont pas accroché un piton. Mylène, je m'excuse tellement.
Pas de problème.
J'aurais dû être meilleur. Mylène, parlant d'être meilleur, il y a une histoire que tu nous as mis à jour dans le quotidien Le Soleil aujourd'hui, cette histoire de la DPJ qui a tenté de se rendre jusqu'à la Cour suprême pour se retirer de ses responsabilités envers un jeune garçon violenté à répétition. Là, ça s'est passé dans le centre-sud de l'île de Montréal.
Exact. Donc, c'est un dossier quand même que je suivais depuis un petit bout de temps parce que en avril, déjà, la Cour d'appel du Québec avait rabroué, en fait, débouté là, la DPJ de Centre-Sud de l'île de Montréal pour un cas là, qui remonte à 2022. Donc, c'est un enfant de 7 ans qui a eu 5 signalements à l'intérieur de 59 jours. On parle de violence, on parle de violence physique, psychologique par sa mère, par sa grand-mère. Dès le début, dès le premier signalement, là, ça avait été coté niveau 3. Donc, un niveau 3, ça, c'est danger là, réel et prévisible. Donc, ça, c'est ça. On doit agir en 4 jours et ça a pris 59 jours là, avant que cet enfant-là soit sorti là, d'urgence.
Et là, ce 59 jours-là, Mylène, ouais, c'est ça, ce 59 jours-là fait en sorte que pas juste la mère là, qui a fait subir des sévices à cet enfant-là, la grand-mère et même un oncle à coups de bâton.
C'est par un oncle là, qui a donné des coups de bâton. Donc, c'est après ce cinquième signalement-là que l'enfant a été sorti d'urgence. Il aurait dû être sorti, évidemment, beaucoup plus tôt. Donc, une avocate a porté ce dossier-là donc pour faire confirmer la lésion de droit parce que c'est vraiment des services qu'il aurait dû obtenir parce que les deux mois pendant lesquels on a laissé cet enfant-là dans cette famille-là, c'est complètement inacceptable. Donc, la Cour du Québec avait d'abord dit oui, effectivement, cet enfant-là a été victime d'une lésion de droit. La DPJ a contesté, donc, en Cour supérieure, déjà un premier appel. La Cour supérieure a dit non, cet enfant-là a vraiment été victime d'une lésion de droit. Et l'argument de la DPJ, c'était ouais, mais c'est parce que, ça, on a des grosses listes d'attente, on n'a pas de ressources. Donc, ouais, ce serait le fun 4 jours, mais c'est 59 jours, c'est vraiment le mieux qu'on pouvait faire. Donc, évidemment, ça n'a pas convaincu les juges de la Cour supérieure. Et la DPJ, par débouter cette première fois-là, est allée devant la Cour d'appel du Québec, qui a confirmé le jugement de la Cour du Québec et qui a dit non, effectivement, vous êtes obligé de donner des services 4 jours, manque de ressources, c'est pas un argument. Et là, la DPJ, au lieu de dire c'est correct, là, on va faire mieux la prochaine fois, ben non, ils se sont essayés avec la Cour suprême. Donc, cet été, ils ont vraiment demandé à la Cour suprême de se saisir du dossier pour avoir raison, pour plaider le fait qu'un manque de ressources pouvait leur permettre de laisser un enfant 2 mois dans ce genre de situation-là. Et la Cour suprême a regardé le dossier et a dit non. Non, là, il n'y a pas eu d'erreur. Les deux tribunaux précédents ont bien jugé la situation. Et non seulement on n'écoutera pas votre cause, mais vous devez tout rembourser les frais juridiques de ceux qui ont défendu l'enfant. Donc, c'est beaucoup d'argent pour ce dossier-là.
Exactement. Et Mylène, c'est-tu moi qui est dans l'erreur ou ça fait pas de sens pour moi que la DPJ dépense autant d'argent pour se défendre alors qu'elle devrait investir cet argent-là dans des ressources pour justement répondre aux besoins?
Exactement, c'est ce que je me dis. Si tout cet argent-là qui a été dépensé là, pour se battre devant des tribunaux avait été investi là, pour des ressources, pour des intervenantes, ça aurait pu faire une différence. Ben, mm-hmm. Puis c'est pas le seul dossier. Là. J'en vois d'autres là, où la DPJ va investir beaucoup de ressources pour essayer là, de ne pas perdre la face ou pas devoir faire d'admission d'erreur. Mais on comprend, c'est sûr que du côté de la DPJ, que ce genre de jugement-là, ça crée une jurisprudence parce que, justement, ils ne peuvent plus invoquer le manque de ressources pour ne pas respecter une ordonnance d'un juge, par exemple, ce qu'ils font assez fréquemment. Donc, c'est sûr que pour la DPJ, là, il y avait quand même un enjeu plus large là, à cette cause-là. Donc, ça donne quand même des arguments maintenant là, à ceux qui exigent que la DPJ agisse là, dans les temps impartis pour donner des services. Mais c'est sûr que ça ne règle pas le manque de ressources, mais justement, comme tu es obligé de donner des services, ben, tu es obligé d'avoir des ressources.
J'ai une question par rapport à la perception qu'on peut avoir de la DPJ, parce que on dirait qu'il y a toujours deux pans. Il y a celui des gens sur le plancher des vaches,
oui,
qui travaillent, qui bûchent, qui en arrachent beaucoup de congés maladie aussi, qui se prennent, mais qui voient autant que certaines personnes les lacunes, les difficultés, puis les débordements au niveau de la DPJ. Puis il y a aussi toutes ces histoires-là qu'on écoute, puis on a tendance à pas vouloir les écouter parce qu'on parle aux gens sur le terrain, puis en même temps, il faut les écouter parce que c'est totalement tragique ce qui se passe. Est-ce que c'est normal d'être divisé émotionnellement quand on entend toutes ces histoires-là?
Absolument, c'est très normal. Moi-même, là, j'en reçois vraiment beaucoup. Puis, tu sais, souvent, j'essaie de doser en me disant, mais justement, faut pas trop en raconter. Mais en même temps, il faut que les gens sachent qu'est-ce qui se passe sur le terrain parce que il y a vraiment des histoires complètement là, rocambolesques et inacceptables. Mais en même temps, je comprends vraiment les intervenantes sur le terrain qui doivent composer avec l'opinion négative que les gens ont de la DPJ. Opinion remarquée qui est pas nouvellement négative. Là. Je pense que, tu sais, les parents qui ont affaire avec la DPJ voient rarement les intervenantes débarquer à leur domicile avec le grand sourire, mais c'est sûr que ce qu'on entend dans les médias, les dératés, les scandales, tout ça, c'est sûr que ça les aide pas. Mais justement, ça augmente l'importance d'établir une relation de confiance, parce que moi, je parle à des intervenantes assez régulièrement, puis celles avec qui ça va assez bien dans les familles, c'est celles qui établissent des relations de confiance, de justement comme un peu gérer la peur de la DPJ en partant, de dire on n'est pas là pour vous enlever vos enfants. Vous traversez une période difficile. On va travailler ensemble. Et ça, généralement, là, quand on a une approche qui est comme ça, ça se passe plutôt bien. C'est sûr que si l'intervenante arrive dans la famille en se disant, moi, j'ai la vérité infuse, vous êtes en faute, on va vous enlever vos enfants si vous faites pas ci, et si tout de suite on installe une dynamique d'opposition, ben c'est sûr que tu sais, il y a des bonnes chances que ça se passe pas très bien. Donc, il y a deux choses aussi. Il y a le côté public, puis même Leslie Hill, la directrice nationale de la DPJ, a fait une sortie pour dire que c'était bien triste que les intervenantes doivent composer avec la mauvaise image publique de la DPJ, mais c'est quand même toujours bien la DPJ qui est responsable de cette image-là.
En effet, en terminant, Mylène, justement, comment tu vois, quelle action tu vois pour la DPJ pour, puis là, je veux pas dire redorer son image, mais faire en sorte qu'on n'échappe plus d'enfants comme on a échappé avec ce jeune garçon?
Bien, je pense qu'il faut vraiment, on le dit souvent, mais vraiment une vraie première ligne, là, un espèce de réseau qui ne serait pas dans la judiciarisation. Là, moi, j'aime beaucoup les centres de pédiatrie sociale là, qui pourraient être une première option pour faire le tri entre les parents qui ont besoin d'aide et qui traversent une mauvaise passe, puis les parents vraiment qui sont complètement inadéquats, les enfants qui sont vraiment en danger. Et là, on aurait beaucoup plus de ressources pour ces enfants-là. Ils seraient beaucoup mieux suivis, les parents aussi. Quand il y a des placements, ils seraient faits. Je pense qu'il y a trop d'enfants qui se retrouvent à la DPJ pour des niveaux de besoins vraiment, vraiment différents. Puis c'est ça, souvent, ça manque. C'est que quand l'enfant entre dans l'espèce de système de la DPJ, ben ça s'emballe assez rapidement vers la judiciarisation. Et là, ça devient compliqué, ça alourdit les tribunaux. Puis pendant ce temps-là, ben il y a des enfants comme ce petit bonhomme de 7 ans-là qui, lui, attend pendant 60 jours qu'on vienne le chercher.
Oui. Moins d'organigrammes, moins de paperasse, moins de bureaucratie, plus d'action sur le terrain. J'adore, Mylène. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi à l'émission On en jase. Pour plaisir de se reparler avec un autre dossier, Mylène.
Toujours un plaisir, au revoir.
Salut, merci. C'était Mylène Moisan du quotidien Le Soleil. Excellent texte, si vous ne l'avez pas lu, là, c'était à la une du Soleil aujourd'hui concernant justement cette problématique à la DPJ.
Ça fait 2-3 fois qu'elle sort d'excellents textes sur la DPJ.
Vraiment?
Entre autres, cet été, elle en avait sorti un sur la rémunération des médecins quand ils auscultent un enfant de la DPJ qui était comme...
Tu l'avais reçu en entrevue, si je me trompe pas.
Oui, c'était plus cher. Oui, t'écoutes-moi.
Ah, j'écoutais ça, moi, sur ce jeu-là.
Puis c'était intéressant parce qu'elle expliquait justement que ça existe. Fait que les gens qui se disent tu sais, ça alimente les rumeurs de la DPJ payée pour sortir des enfants des foyers. Mm-hmm. Mais ce qu'on retient, c'est qu'elle en parle, mais plusieurs commencent à en parler. Oui. De ce genre de ligne différente-là entre la ligne dure, qui on se rend en cours là, pour l'enfant, puis peut-être aller juste encadrer des parents qui ne voudraient pas se rendre avec la DPJ, qui ont tout l'amour du monde, la boîte de coton de Watt pour leurs enfants. Mais malheureusement, peut-être qu'eux aussi sont nés dans une famille qui a moins de moyens, puis ils veulent juste être orientés. Dites-moi quoi faire, puis je vais le faire.
Manque de technique, autrement dit. Et c'est vrai qu'il faut séparer, je vais le dire comme ça, là, les cas lourds avec les cas qu'on peut accompagner. Il faudrait séparer ça dans le système.
Les actes criminels, la négligence crasse où le parent veut rien savoir de changer versus quelqu'un qui n'a pas ces moyens-là sociaux.
Exactement. Après la pause, on va parler avec notre excellent chroniqueur Rémi Villemur. On va parler de deux choses, Pascal CV. Je te fais écouter les extraits.
New lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this.
C'est Jimmy Kimmel et ses propos justement sur le meurtrier de Charlie Kirk qu'il avait tenu la semaine dernière. Il sera de retour en ondes ce soir sur le réseau ABC. Donc, il y en a plusieurs qui voient ça comme une victoire de la liberté d'expression. C'est ce qu'on va parler avec Rémi Villemur. Et on va parler également de cette personne.
Moi, je pense que j'ai contribué à préparer la ville au futur. Les administrations municipales, avant moi, avaient décidé d'investir aussi dans les tuyaux. On n'en aurait pas eu un geyser ou on en aurait moins. Moi, j'ai décidé de faire la job qui n'était peut-être pas la plus sexy, la plus populaire. Personne n'aime ça des chantiers. Moi, j'aime pas ça.
Mais est-ce que
mais
ça
si
bouge
je ne prépare pas, est-ce que je pète le problème par en avant comme les autres ont fait? Moi, je suis pas de même.
Moi, Pascal CV, j'avais entendu ça que Valérie Plante, c'était... Son leg, c'était les pistes cyclables à Montréal. Mais elle a dit que c'est les tuyaux. Qu'est-ce que Rémi Villemur en pense? Les pistes cyclables, les tuyaux, autre chose? On le sait après la pause. Ça te convient?
Moi, là, j'ai pas dit ça, là. Ça me fait rire des fois, le langage, la façon de communiquer des politiciens.
Vraiment. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102 à l'émission On en jase. On en jase.
jusqu'à...
Si on était sur la 3e avenue, aujourd'hui, du moins, tous les collègues et moi, on se serait dirigé où? Ben au Sobab. La machine à café, elle est brisée, puis les grains qu'on met dedans, c'est Sobab. Fait qu'on a besoin d'une machine en ce moment. Ça se voit dans l'humeur des collègues. Hein? Jeff, on pourrait pointer du doigt ceux qui ont un petit peu un manque d'humeur. Le café, c'est ça que ça fait. Ça nous fait du bien. Ça fait partie de la routine quotidienne, puis honnêtement, ça nous réveille aussi. Quand vient le temps de travailler, ben on est bien content. Puis là, c'est l'automne. On a envie de cocooning, on a envie de réconfortant. Si vous avez votre nouvelle machine, parce que je sais qu'il s'en est vendu énormément là, avec l'automne, vous avez dit, ouais, là, cette année, moi, avec la routine des enfants, avec le travail, je me paye une bonne machine, ça va être les cafés à la maison, et c'est mon cadeau à moi de moi. Parlons-en de ça. Si vous en avez une nouvelle machine, si vous en avez une bonne, bien, on est là pour vous parce qu'on a une panoplie de cafés qui s'offre à vous. On va y aller avec vos goûts. On va prendre le temps de vous faire goûter. On va prendre le temps de trouver celui qui est parfait pour votre machine. Avec une petite marge dans les moelleux, une petite tuque, un petit chandail, bien, l'arrêt s'impose chez Sobab. C'est une entreprise familiale qui fait affaire avec nous depuis de nombreuses années, qui vous garde toujours le plus possible. Si tu n'as pas envie de sortir, c'est pas grave. Viens t'équiper, puis tu vas pouvoir faire comme tous ceux qui l'ont acheté pour la rentrée, avoir le même café en direct de ta maison.
Vous n'avez pas...
On en jase.
L'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101, il est précisément 13h11. Pascal, j'ai une question pour toi. L'application, pognes-tu au Kilimanjaro?
Non, malheureusement.
Tu pourras pas nous écouter.
Non, puis honnêtement, c'est correct. Je pense que j'ai jamais eu dans ma vie, là... une pause comme je vais avoir là.
En effet.
Dans toute ma vie. Je peux même pas utiliser les réseaux sociaux. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Je vais revenir à vide de t'entendre sur ce qui s'est passé
ben,
dans ces
ça,
semaines-là.
Exactement. Non, je te disais ça parce que tu sais que c'est le meilleur moyen de nous écouter, l'application.
Ben oui.
L'application Boulevard,
si j'avais pu,
App Store, Google Play
Store.
J'aurais
eu la curiosité d'y aller.
Fameux haut-parleur intelligent.
Exact. Puis là, ouais. En passant, dites BLVD. C'est parce ça. Que si vous dites Boulevard, ça vous envoie aux États-Unis.
Ouais, exactement. Fait que BLVD pour nous écouter. Puis à Montréal aussi, c'est une bonne façon de nous écouter, cette application-là. Puis on a des chroniqueurs de Montréal qui sont excellents. Et j'en nomme un, c'est Rémi Villemur qui est avec nous les mardis et jeudis aux alentours de 13h à chaque semaine. Rémi, comment vas-tu?
Ça va super bien. Je pensais que Pascal allait être parti, puis là, ben, elle est encore là, fait que ça va encore mieux.
Ben, c'est ça, puis tu vas avoir le plaisir de lui parler jeudi aussi.
Oui.
À son dernier jour.
Oui, j'ai extensionné pour qu'on puisse se parler une deuxième fois cette semaine.
Exactement.
Après ça, c'est fini.
Rémi, gain pour la liberté d'expression, le fait que Jimmy Kimmel reprend l'antenne ce soir sur les ondes d'ABC?
Ben là, il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Il y a des gens qui disent que c'est une décision économique. Moi, je retiens quand même que ça faisait l'affaire d'une certaine droite qui s'en aille. Donc, maintenant qu'il revient, mon interprétation, c'est que c'est une bonne chose, effectivement, pour la liberté d'expression. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai vraiment hâte qu'on sorte de ce cirque-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que on va en parler là, de Jimmy Kimmel, là, mais il y a un autre sujet qui est en filigrane, qui survole le sujet en soi, c'est l'idée même qu'on se préoccupe autant de politique intérieure, de faits divers, d'affaires américaines comme ça. On est vraiment dans une espèce de psychose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a tous fumé collectivement au Québec, là, mais il est temps qu'on en sorte. Mais Jimmy Kimmel, donc, c'est une bonne idée qu'il revienne, c'est une bonne affaire. Je pense que moi, qui suis plus associé à la droite, par exemple, pendant des années, j'ai vu des gens plus classés à droite être victimes de campagnes d'annulation, de censure, de campagne injuste en général sur le plan de l'image et du discours. Et je voyais certains de mes collègues, certaines personnes dans des fêtes, dans des lancements de livres qui me disaient « j'ai hâte que la gauche mange la claque ». Puis on voyait arriver la deuxième élection de Donald Trump comme sans doute une période de l'histoire durant laquelle la gauche allait manger la claque. Et moi, je ne sais pas de me draper d'une vertu... unique et exceptionnel, mais j'ai toujours cru à la cohérence. J'ai toujours pensé que si on dénonçait quelque chose à gauche, ben il fallait faire la même chose avec la droite parce que sinon on allait se faire prendre, puis il n'y a rien comme se faire prendre à être incohérent. Et j'ai été vraiment déçu de voir des gens, bien franchement, ne pas prendre la défense à gauche de, par exemple... Jimmy Kimmel, ou à droite, de prendre la défense de Jimmy Kimmel, ça a été plus le cas. Là. J'ai entendu beaucoup de gens de droite dire « bon, ben, il était temps que quelqu'un paye comme ça ». Il faut toujours éviter ça.
Exactement. Faut toujours éviter que des gens se fassent retirer leur micro, leur droit de parole, parce qu'ils ont des opinions politiques différentes. Qu'est-ce que tu crois que ça peut changer aux États-Unis, le retour de Jimmy Kimmel? Est-ce que ça va venir, justement, tempérer cette fameuse guerre droite-gauche, ou ça va juste faire en sorte qu'on va l'exposer davantage?
Ben, je pense qu'il va changer un petit peu sa stratégie. Là. On s'est mis à ne plus en parler assez rapidement, mais ce qu'il a dit le soir où ça lui a sans doute valu un congédiement très temporaire, c'était peut-être quelque chose qu'il n'osera pas répéter. Parce que ce soit une décision économique ou une décision là, philosophique de redonner la parole à quelqu'un à qui on l'avait retiré, c'est quand même parti du fait qu'il avait peut-être tenu des propos très divisifs à un moment même où on n'a pas besoin de ça aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, c'est lui qui va changer sa stratégie, probablement. Puis, j'ai hâte de le voir aller. J'ai hâte de voir s'il va... Parce qu'il pourrait aussi décider de provoquer. Hein, il pourrait faire ça. Il pourrait décider de mettre encore plus de pression là-dessus.
Ça m'étonnerait qu'il le fasse, selon moi. Ça m'étonnerait qu'il le fasse, selon moi. Là, je pense que l'heure est justement rendue à la réconciliation un petit peu plus aux États-Unis.
Ouais, mais les comiques, des fois, ils ont cette responsabilité-là. Puis je pense, je lui en voudrais pas. Hein, je veux dire, Coluche en France faisait la blague de trop. Si des gens dans une société doivent pousser les limites de la liberté d'expression, ce sont bien les comiques. Alors, d'ailleurs, en passant, c'est drôle qu'on n'ait pas parlé du fait que c'est pas ce gars-là qui écrit ses textes. Hein. C'est plein d'auteurs en arrière de lui qui écrit. Non, mais c'est vrai.
Bon point.
Ouais, oui, c'est super organisé, les talk shows, surtout aux États-Unis. Ils collaborent bien souvent, mais je veux dire, des scripts, là, c'est payé. Il y en a dans certaines radios au Québec. Imaginez qu'aux États-Unis, c'est un métier en somme. C'est vrai qu'il a payé pour eux.
Mais oui, tout à fait.
Mais il est le visage d'eux, là, c'est normal. Là.
Ben oui, c'est ça, exactement. C'est lui qui doit tout assumer parce que ce que je vous annonce là, c'est pas tout le monde qui le sait. Là. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens dans ce milieu-là à un moment donné. Donc, je le sais qu'il y a toute une équipe d'auteurs, de scénaristes derrière lui. Donc, c'est un peu absurde quand on y pense parce qu'il a payé un peu le prix de la blague qu'on lui avait écrite comme ça.
Il n'aurait pas dû payer pour ça. C'était pas, il n'y avait pas de crime.
Non, il n'y avait pas de crime. C'était une blague, son affaire. T'sais, moi, je ne l'ai pas trouvé super drôle. J'ai trouvé maladroite. J'ai pas compris pourquoi il tenait bon d'aller dans cette direction-là. Mais quand on est pour la liberté d'expression, on est pour la liberté d'expression. C'est exigeant, ça fait mal. Des fois, ça nous coupe des amitiés, des relations, même conjugales. Mais c'est la vie. On est pour ou on est contre.
En effet, t'as entièrement raison. Je nous ramène à Montréal, Rémi, parce que je l'ai dit, tu résides là-bas et c'est le chant du cygne pour Valérie Plante avec la campagne électorale qui a commencé. Tu retiens quoi du legs de Valérie Plante? En entrevue à Novo, elle a dit « Moi, j'ai travaillé ses tuyaux. » Quand je parle à mes amis de Montréal, ils disent « Il y a beaucoup trop de pistes cyclables. » Toi, tu retiens quoi de son legs?
Je retiens un règne profondément idéologique. Je retiens aussi le règne d'une personne qui a préféré les coquetteries aux tâches administratives, les tâches qui sont plates, mais qui sont quand même celles d'un maire ou d'une mairesse. Je m'explique. On peut remarquer, par exemple, si on aime les vélos, elle a été une très bonne mairesse. Là. Il y a eu plein de pistes cyclables, elle a investi des centaines de millions là-dedans. Si on aime une ville verte, avec des parcs, avec de l'eau, avec des espaces pour jouer, pour se détendre, c'est une très bonne mairesse aussi. Mais le travail primordial, les premières tâches d'une mairesse, c'est la propreté, c'est la sécurité publique, c'est les routes. Et dans ces trois domaines-là, je veux dire, je vous annonce rien, là, c'est lamentable. C'est lamentable. Au niveau de la propreté, moi, je me promène. Dans certains quartiers, on a décidé de prendre les vidanges une fois sur deux, donc une semaine sur deux. Dans Hochelaga, dans l'Est où j'habite, encore à ce jour, c'est compliqué. L'été, il faut que tu aies toute une espèce de gestion en arrière sur ton balcon ou dans ton garage. Elle a décidé de faire ça pour des raisons idéologiques. Là. La preuve, ils sont revenus sur leur décision. Donc, c'était parce qu'on voulait devancer les citoyens qui ne sont pas prêts à ça, qui ne veulent de toute façon pas ça, qui ne sont pas prêts à adopter le compost comme manière de fonctionner dans une ville où il fait 45 degrés ressentis quand c'est le mois de juillet ou le mois de juin même, et même septembre. Donc, il y a eu beaucoup d'idéologies, il y a eu beaucoup d'idées. On n'a jamais autant parlé à Montréal d'inclusion que durant ces 8 années-là. Inclusion, inclusion, inclusion. Elle a créé un poste pour un commissaire au racisme systémique, une femme qui gagnait près de 200 000 $. Elle les gagne toujours d'ailleurs. Ce poste est toujours ouvert et existe à l'hôtel municipal. Donc, j'aurais préféré, moi je le dis souvent aux gens, j'étais pas d'accord avec son idéologie. Mais je l'aurais accepté, son idéologie, si toutes les tâches de base, et je l'ai dit, ce sont des tâches plates à administrer, elles avaient été assumées. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui se pètent la gueule en vélo dans des nids de poules. Il y a des gens qui poursuivent la ville parce qu'ils pognent ils rentrent dans des nids de poules puis ils ne brisent pas juste leur suspension. Parce qu'il y a une règle à l'hôtel municipal, ça c'est fourette, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais l'année 2024, il y a eu 8 000 réclamations d'automobilistes qui ont vu leur voiture être endommagée par des nids de poules.
OK, fait que là, ça donne à peu près 5 par jour.
À peu près, et il y a eu juste 90 réclamations qui ont été acceptées. Pourquoi? Parce que dans les règles qui autorisent ou, en fait, permettent à la ville de rembourser un automobiliste, il faut que la suspension ou les roues soient affectées. Mais si c'est quelque chose à l'intérieur du véhicule, là, on dit, ben, c'est pas de notre faute. Mais c'est quand vous avez déjà pris un nid de poule, là, solide, solide, solide. Là, des fois, vous dites, je pense que même le moteur a pris la claque.
Oh oui, tu le sens.
La ville de Montréal, c'est pas un motif de remboursement. Donc, on est allé vraiment très loin. Ça va faire du bien qu'elle s'en aille pour de vrai. Je le dis sans méchanceté. Elle a fait son temps. Et il y a une chose qui m'inquiète, c'est qu'elle dit, mon règne, il n'est pas visible encore, c'est dans 10 ans qu'on va pouvoir me juger. Ça, quand quelqu'un dit ça, là, c'est parce que c'est pas occupé des affaires courantes.
C'est parce que j'espère que ça, c'est par rapport au tuyau là, dont elle parle, là, parce que c'est vrai que peut-être dans 10 ans, les tuyaux. Mais ça, c'est une autre chose. J'ai l'impression que tu as dit, elle a fait son possible, c'est ça que tu as dit? Elle a fait ce qu'elle pouvait. En tout cas, moi, tout ça pour... Elle a fait ce qu'elle... son possible. Je pense que cette femme-là, elle a un attirail de charisme, elle a un attirail de possibilités de conversation, de communication. Elle souhaite réellement avoir une ville qui est bien dans l'intégration, dans le multiculturalisme, dans le partage des routes de toutes les manières. Mais je pense honnêtement qu'elle avait un petit peu trop de lunettes roses. C'était plus complexe pour elle gérer une aussi grosse municipalité. Tiens, je vais le dire comme ça, ville que Montréal, c'est énorme. À Québec, on le voit, les enjeux sont très difficiles. On parle souvent de la politique comme municipale comme étant plus facile, mais les enjeux sont tellement différents que ça peut être aussi complexe qu'au provincial et certainement plus qu'au fédéral. Je pense qu'elle a frappé ce mur-là, honnêtement. Lino Zambito écrivait il y a quelques heures « Bonsoir à tous, je fais un appel. Ça prend un candidat ou une candidate d'envergure pour la mairie de Montréal. Cette ville est sur le respirateur artificiel. Faut absolument changer notre vision, notre idéologie. Est-ce que tu penses qu'avec les candidats actuels, Montréal peut bien aller pour la suite en termes de politique municipale? »
Bien, ça va prendre de la foi, parce que Luc Rabouin, qui se présente pour Projet Montréal, qui est le candidat donc, de Projet Montréal, qui est pressenti pour l'emporter, bien, c'était le bras droit de Valérie Plante. Donc, pour moi, il n'y a rien de risqué dans le fait de dire que ça va être du pareil au même. Là, il y a beau des fois dire, écoutez, ça, c'était pas mon idée. Il a toujours été là, à côté d'elle. Soraya Martinez, pour moi, je veux dire, c'est Justin Trudeau. Là. C'était le règne de Justin Trudeau, donc c'est... Moi, par exemple, qui trouve que c'est important de faire de Montréal une ville francophone, une ville où on intègre bien les immigrants, mais pas où on adopte un modèle comme le multiculturalisme. Je suis obligé d'être un petit peu inquiet en la voyant arriver. Et sinon, ben, il n'y a pas de ces candidats-là que souhaite Lino Zambito, parce que ce travail-là, tu viens de le dire, Pascal, c'est un travail qui est difficile, qui est même peut-être ingrat. Hein? Valérie Plante, s'il y a une chose qu'elle a dite et que je pense qui est exacte, c'est quand elle a dit qu'elle était un paratonnerre. Donc, elle prenait toutes les critiques, puis ça venait de toutes parts, puis des fois, c'était pas de sa faute, puis elle savait que c'était vers elle que ça s'en venait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, même quand ils regardent le salaire, hein, un salaire, je pense que le salaire de la mairesse de Montréal, c'est à peu près 200 000 $, c'est un bon salaire quand même, ils se disent, moi, c'est pas vrai que je vais aller travailler 7 jours par semaine pendant 4 ans à me faire insulter, à recevoir des menaces, à ne pas être capable d'aller manger un déjeuner un dimanche avec ma gang dans un restaurant sans me faire regarder tout croche, me faire insulter. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Donc, ça n'attire pas les candidats que souhaiterait avoir Lino Zambito. T'sais, ces gens-là, souvent, ils gagnent un bon salaire eux autres aussi. Et même s'ils gagnent moins, ils n'ont pas envie, pour la différence entre leur salaire et celui d'un maire de Montréal, de vivre avec tous les périls que je viens de vous décrire. Ouais.
Ils vont choisir la qualité de vie, clairement. Rémi, je termine avec ça. Est-ce que Montréal est en danger de façon économique? Parce que tu as parlé beaucoup d'idéologie de gauche du côté de Valérie Plante. Je sens cette même idéologie chez les candidats à la mairie présentement. Est-ce que le développement économique de Montréal est en péril à l'heure actuelle?
Ben, j'ai parlé avec Greg Sauvé, là, qui est le troisième candidat là, vedette, j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui passait troisième dans la course hier. Puis il me disait, ben, il faut pas encore. Lui, c'est quelqu'un qui se classe très à gauche. Puis il me disait, non, c'est pas encore le moment de s'inquiéter. La cote de crédit de Montréal est encore en bonne position. La vérité, c'est que si vous regardez le budget de la Ville de Montréal, qui en 2025 était 7 280 millions, vous aviez 16 % du budget qui était au service de la dette. Ça veut dire que 16 sous chaque pièce servait à rembourser la dette et les intérêts sur la dette. Ça veut dire que cet argent-là, normalement, si les finances étaient plus en ordre, ils iraient dans le transport, ils iraient en sécurité, ils iraient dans le nettoyage, dans le déneigement. Donc oui, je suis absolument inquiet pour l'économie de la Ville de Montréal. Il y a des très mauvaises décisions qui ont été prises. Il faudrait couper dans la bureaucratie. Montréal, c'est 103 conseillers municipaux et maires d'arrondissement. C'est à peu près 5 fois plus que Toronto, qui est une ville 3 fois plus nombreuse. C'est plus de 10 000 employés municipaux. Donc, et il y a plus de 10 000 employés municipaux à Montréal qui gagnent 100 000 $ et plus. Donc la solution est là et dans la bureaucratie.
Clairement, et si Montréal ne va pas bien, la province de Québec en entier n'ira pas bien parce qu'on a besoin d'une métropole en santé. Rémi Villemur, c'est toujours un plaisir de te parler à chaque mardi et jeudi. On se parle jeudi prochain pour le dernier moment en onde de Pascal CV avant sa montée du Kilimanjaro.
Bye-bye à tous les deux.
Salut Rémi. Rémi qui est toujours très, très, très intéressant. Tu sais comment je suis toujours en rivalité Québec-Montréal, moi, parce que je suis né dans les Nordiques contre les Canadiens.
Ça vient de là, hein? Ça, c'est dans vos veines.
Mais crime qu'il faut que Montréal soit en santé pour la province de Québec.
Bien, pour la province, pour nous aussi, pour nous aussi. Québec.
Ah, oui.
Parce que j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe, si on va chercher des alliés, autant interprovincial, bien, autant intermunicipal, va nous falloir une force comme Montréal.
Exactement. On n'a pas le choix que Montréal soit en santé. Donc, on va souhaiter que la métropole se remette sur pied quand même assez rapidement. Pascal, après la pause, on va parler de Tylenol, autisme, Donald Trump, avec Valérie Courchesne, une spécialiste justement recherchiste pour le CIUS du Centre-Nord de l'île de Montréal et professeure à l'Université de Montréal. Et on va également avoir le bonheur de jaser avec Jenny Guilmette. Jenny Guilmette, sa fille Anaïs, est victime d'intimidation depuis la maternelle. On lui écrit sur les médias sociaux « Passe-toi la corde au cou ».
Ah non, ça fait pas de sens.
Elle veut nous sensibiliser là-dessus. Ça fait vraiment pas de sens. Alors, ce sera nos deux sujets de fin d'émission. Vous êtes à Boulevard 102 à l'émission « On en jase ». L'émission « On en jase » avec Jeff Fortin, Pascal CV. Pour nous rejoindre, meilleure façon, 418-971-1021 pour nous donner votre opinion. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire, de répondre, et même on vous lit régulièrement en ondes. Va suivre l'émission d'En jase, comme d'habitude, le retour de Gravel avec Denis Gravel, Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Et ça sera Marceau le soir par la suite à 18h. Pascal, on a Valérie Courchesne, spécialiste pour nous parler du Tylenol et de l'autisme au bout du fil. Mais avant, qu'est-ce qu'on a à retenir dans l'actualité?
Beaucoup de choses, honnêtement. Je commence avec le fiasco SAQ Click. Après une journée tendue, eh bien, Carl Malenfant a minimisé l'impact financier du projet. Honnêtement, ça va pas bien pour le témoignage de M. Malenfant. Et vous en reparlerons dans le retour assuré. Vraiment. Au moins, le calme est revenu.
C'est pas grave. 1,1 milliard, Pascal. 500 millions de dépassements. Ben, rien, là, c'est l'argent public.
Ben, on pourra devoir réinjecter 144 millions de dollars en passant dans le projet.
Aïe,
le cas
plus.
Échéant, ben, la rentabilité projetée va s'évaporer. Puis ça, c'est un tableau qui a été préparé par la vice-présidente aux finances. Bon, il n'y a pas de chicane. Le calme est un peu revenu dans la salle, mais certainement, il y avait encore une tension palpable. Du côté de Longueuil, l'ado qui a été abattu par la police de Longueuil il y a 15 ans, il n'y avait pas d'arme à feu avec lui. Alors ça, c'est sorti comme information. On sait qu'on est un peu dans l'incompréhension de tout ça. Il y avait un sac à dos, il se serait penché un moment pour fouiller dedans. Garçon de 15 ans qui s'est fait tirer dessus 2 fois par cette personne qui est dans la police de Longueuil. Une première fois, il est tombé au sol. Une deuxième fois, présence d'au moins une vingtaine de jeunes vêtus, presque majoritairement de noirs, qui arboraient des capuchons aussi, qui a fait sourciller beaucoup de résidents. Alors, pour ça qu'on avait appelé le 911. On a saisi bâton de baseball, on a saisi cagoule. Écoute, va falloir faire certainement des éclaircissements sur tout ça. Je pense que tu veux aller entendre ce que Brigitte Bishop, la directrice du BEI, avait à dire en point de presse ce matin. Et en passant, un point de presse du BEI, c'est extrêmement rare qu'on a ça. Entre autres, elle va ramener à l'ordre les petits enquêteurs de quartier qui sont en train de polluer l'enquête actuelle du BEI.
Nous avons saisi un arme à feu, nous avons saisi un sac à dos, nous avons saisi des cagoules, bâtons de baseball et autres effets. Et nous sommes en attente aussi d'expertise. Nous allons faire expertiser notamment l'arme à feu par la balistique et d'autres et les autres effets. J'invite la population ou les gens qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses, qui possèdent des éléments de preuve, de communiquer avec le BEI. Présentement, on entend sur le terrain qu'il y a peut-être une certaine incompréhension sur le rôle du Bureau des enquêtes indépendantes. Je peux vous assurer que notre bureau est un bureau indépendant. Nous sommes impartiaux et notre mission est de faire la lumière sur les événements. Pour faire la lumière, nous avons besoin des éléments de preuve les plus qu'on obtient de façon la plus rigoureuse. Donc, nous voudrions pas que certaines personnes se rendent compte ou altèrent des éléments de preuve. Donc, si des gens ont des choses à dire, ont vu des choses, je le répète, communiquez avec le Bureau des enquêtes indépendantes.
Très important de suivre les procédures là-dedans, le Bureau des enquêtes indépendantes. Ça le dit, c'est indépendant. Ouais. Ça ne prend pas le bord d'un ou de l'autre. Ça le fait de façon très impartiale, l'enquête. Une petite dernière?
Peut-être parler d'ici, du côté de Lévis. On a jeté le blâme sur la surdensification sous l'Aulier pour plusieurs problématiques comme le trafic, les taxes qui montent, les égouts qui débordent, les arénas qui sont pleins. On dit que c'est parce que Lévis a été victime de surdensification sous Gilles Leaulien. En fait, c'est Serge Bonin, candidat à la mairie de Repensons Lévis, qui l'a accusé. Et moi, quand j'ai lu l'article, permets-moi un clin d'œil, je me suis dit, OK, ouais, mais il y a beaucoup de résidents de Québec qui ont traversé à Lévis parce qu'ils vivaient cette problématique-là.
Oui.
Ça se peut qu'on a surpopulé Lévis et que ça a créé le même problème.
En effet, tu as entièrement raison. Donc, puis Lévis, mais il y avait des terrains pas chers. On a voulu développer cette ville-là énormément. Au bout du fil, on a Valérie Courchaine, chercheuse au CIUS du nord de l'île de Montréal et professeure à l'Université de Montréal. Madame Courchaine, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Excellent. Madame Courchaine, permettez-vous que je vous appelle Valérie?
Oui, oui, c'est parfait.
Ah, parfait, excellent. Valérie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le Tylenol est vraiment relié à l'autisme comme Donald Trump et Robert Kennedy Jr. tentent de le faire passer aux États-Unis?
Non, absolument pas. La science ne va pas du tout dans ce sens-là. Les données, en fait, montrent très clairement qu'il n'y a pas de lien entre le Tylenol pendant la grossesse et l'autisme. Donc, c'est vraiment une mauvaise interprétation, en fait, de certaines données. Les auteurs eux-mêmes là, de ces études-là mentionnent qu'il n'y a pas de lien causal entre l'autisme et le Tylenol.
Oui, parce que c'est ma question. Sur quelle étude on se base du côté de Trump et Robert Kennedy Jr.? Est-ce qu'on se base sur des études sérieuses ou des études qui émanent plus là, du courant complotiste?
Oui, bien, c'est dur à dire. Il y a vraiment une vaste littérature là-dessus. Puis, clairement, ils n'ont pas pris les études les plus sérieuses, en tout cas, qui ne démontrent pas de lien. Il y a certaines études là qui montrent des corrélations. Corrélation, ça ne veut pas dire cause. Puis, ce que ça veut, en fait, quand on contrôle pour tous les facteurs qu'on devrait contrôler pour faire de la bonne science, on se rend compte qu'il n'y en a plus de lien. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il n'y a pas de lien qui existe. Puis les études qui en trouvent un, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas contrôlé pour certaines variables comme les facteurs génétiques, qui, eux, on le sait, sont impliqués dans l'autisme.
Comment est-ce que vous expliquez le président d'une nation comme les États-Unis qui prend la parole par rapport à un produit de type Tylenol et qui s'avance sur un genre de possible recul du Tylenol quant à le fait qu'une femme enceinte en prendrait?
Oui, bien, c'est en tout cas hors norme. J'allais dire pratiquement du non jamais vu. Premièrement, bon, c'est pas nécessairement son rôle du tout, puis ça a des impacts majeurs pour la santé publique quand des gens avec autant de notoriété disent des choses comme ça, alors qu'ils savent pas nécessairement lire la science, ils savent pas la vulgariser, ils savent pas comprendre toutes les nuances. Donc, puis même, bon, c'est ça avec Kennedy, lui non plus, semble pas toujours bien comprendre les études. Donc, soit il les comprend puis volontairement, il fait fi de certaines données, soit il les comprend pas vraiment puis il rapporte uniquement là, ce qui va avec son hypothèse, qui est l'inverse de ce qu'on fait en recherche finalement.
On discute avec Valérie Courchaine, qui est chercheuse au CIUS du nord de l'île de Montréal et professeure à l'Université de Montréal. On parle de cette corrélation mensongère entre le tinénol et l'autisme. Valérie, justement, pour les besoins de nos auditeurs, répète-nous scientifiquement comment l'autisme se développe chez nos enfants.
Ouais, ben en fait, ce qu'on sait, c'est que l'autisme, c'est génétique. Donc, c'est-à-dire qu'on a des prédispositions, ça prend tout. C'est des prédispositions complexes. C'est pas juste un gène qui cause l'autisme. Dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait qu'on ne sait pas exactement encore. On comprend pas suffisamment la génétique et l'épigénétique, donc l'interaction là des gènes avec l'environnement, puis tout ça pour comprendre exactement ce qui se passe. La plupart des anomalies génétiques qu'on a identifiées jusqu'à maintenant, on les retrouve chez, on va dire, au maximum 1% de la population autiste, ce qui veut dire que c'est vraiment pas, on est très, très loin de dire, voici, il y a une cause identifiée. Donc, on trouve des petits gènes comme ça, des petites anomalies, puis on les lie à l'autisme. Donc, on voit qu'il y en a un peu plus chez les personnes autistes que dans la population générale, mais plein de gens de la population générale ont ces anomalies-là aussi, tu sais. Donc, on sait que c'est génétique, on sait que c'est complexe. Donc, c'est pas aussi simple que, par exemple, la trisomie où on voit, ah, ben, un gène, on l'identifie, puis on sait que ça va être ça, le phénotype. Donc, mais par contre, on sait très bien, là, que, ben, en tout cas, toute la science qui s'est penchée sur les facteurs environnementaux, tu sais, il y en a eu sur les métaux lourds, sur toutes sortes d'autres facteurs comme ça, il y a rien de convaincant là dans la science en ce moment. Donc, on aimerait bien trouver une cause comme ça simple dans l'environnement et contrôlable, mais pour l'instant, il y a absolument rien là qui va dans ce sens-là.
Exactement. Puis c'est clair que le fait qu'on le diagnostique davantage vient augmenter là, justement les enfants et les troubles de l'autisme chez l'enfance. Valérie, est-ce qu'on vit une période dangereuse en Amérique du Nord avec Robert Kennedy Jr. à la tête de la santé aux États-Unis qui dit « Hey, gardons ça, en Floride, on n'a plus besoin de vacciner pour la rougeole, le vaccin pour la COVID, c'est de la scrap. » Est-ce que c'est dangereux pour des problèmes de santé qui pourraient s'en venir ici au Canada?
Bien, moi, je pense que tout à fait. Je veux dire, ça va avoir des impacts de santé publique majeurs, puis bon, on est juste à côté. Il y a déjà ici, à cause des controverses autour des vaccins, des parents qui ne font pas vacciner leurs enfants. Puis dans les garderies, en ce moment, il y en a des éclosions de rougeole à certains endroits, alors que c'est une maladie éradiquée. T'sais. Donc, sur le plan de la science, il n'y a absolument pas de débat là, y a à y avoir sur les vaccins, par exemple. Tout le monde s'entend, il n'y a pas de controverses autour de ça. Donc, ça ne fait pas ça. Que les gens à la tête des organismes de santé, c'est un peu comme si la personne dans la tête de Santé Canada disait des choses comme ça, dangereuses. Il y a des choses sur le lait non pasteurisé, sur toutes sortes de sujets. Puis c'est vraiment dangereux pour les gens qui ne sont pas nécessairement toujours en mesure d'aller lire les études scientifiques, de savoir si c'est vrai ou non. Donc, ils vont fier à la personne qui a l'autorité puis qui est supposée de savoir ce qui est bon puis nous dire, OK, voici l'état de la science. Enfin, quand les gens qui sont dans ces positions-là ne suivent pas la science et les recommandations qui sont vraiment très, très, très mainstream, là, si on veut, c'est dangereux, effectivement. Moi, je pense que ça va avoir des impacts majeurs sur la santé publique dans les prochaines années.
Je me demande, tu sais, parce que je trouve ça valide, là, je trouve ça valable, les gens qui disent « Ah, mais il y a tellement d'études, des fois, il y en a une qui dit une chose, l'autre dit une autre chose, puis là, on ne sait pas trop sur quoi se fier. On a-tu un truc pour ça? »
Oui, ben puis c'est ça, habituellement, notre truc, c'est, tu sais, par exemple, l'INSPQ, les organismes comme ça, les agences Santé Canada et tout, ont le mandat, ils ont des scientifiques qui travaillent pour eux, qui font l'état de la science, qui vont aller voir, OK, c'est quoi les études, puis lesquelles sont de qualité, puis on peut se fier, lesquelles sont pas de qualité, puis on fait, ce qu'on appelle soit des revues systématiques de cette littérature-là ou des méta-analyses, donc on va aller donner un poids plus grand aux études qui ont une meilleure qualité, tu sais, sur le plan méthodologique et tout ça, donc que leurs conclusions sont plus fiables. Puis on met tout ça ensemble, puis on émet des lignes directrices. Donc, habituellement. Puis au Canada, heureusement, c'est encore le cas, là. On peut se fier à ce que, par exemple, des institutions comme le CHU Sainte-Justine va nous dire, tu sais, des gens qui ont vraiment des gens qui sont mandatés pour nous vulgariser ça, finalement, parce qu'on peut pas, tu sais, même en tant que scientifique, moi, je suis dans le domaine de l'autisme, quand je veux savoir quoi faire par rapport à certaines choses à mes enfants, puis qui ne touchent pas à ça, mais je vais aller voir qu'est-ce qui se dit sur naître et grandir, les sources fiables, des CHU Sainte-Justine, ce type de choses-là, ou l'Agence de santé publique, ou Santé Canada, tu sais.
Valérie Courchesne est chercheuse au CIUS du Nord de l'île de Montréal et professeure à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir parlé d'Otis et de Tylenol, et au plaisir de se reparler prochainement.
Merci, bonne journée.
Salut Valérie, merci beaucoup. Alors c'était Valérie Courchesne, très questionnant ce qui se passe à l'heure actuelle. On a congédié énormément de scientifiques aux États-Unis. Donc de voir que la science, justement, éprouvée, ne prend plus le dessus sur les décisions politiques, c'est vraiment questionnant.
Puis là, j'ai comme fait un genre de recherche tantôt sur ChatGPT rapidement, parce que j'ai eu un flash. Puis là, je m'en vais là, mais on va apprendre avec des pincettes. Là. ChatGPT, quand j'ai posé la question... Les usines de Tylenol sont où?
Mm-hmm.
Bon. On dit que l'usine américaine de Tylenol a fermé il y a un certain nombre d'années. La seule usine en Amérique était à Guelph, en Ontario.
OK.
Là, y a-t-il un contexte économique là-dedans? Ouais. Je mets toutes les hypothèses à la
tête. Non, mais c'est bien, que tu nous mentionnes le tout parce que oui, en effet, ça pourrait faire partie.
On serait pas nécessairement surpris d'une stratégie du type.
On serait pas surpris avec
On serait déçu, par exemple.
On serait très déçu, mais on serait pas surpris avec la politique protectionniste de Donald Trump en matière d'économie. Pascal, parle-nous donc du pool de hockey BLVD. Là, je veux entendre parler de ça. J'ai le goût de m'inscrire.
C'est sûr que t'es déjà inscrit, toi.
Mais non, même pas. Faut que je le fasse.
Voyons.
Fait que là, dis-moi où aller. Okay, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Je vais te le dire parce que c'est vrai, c'est moi qui ai les informations. Donc, Jeff, OK? Jeff et tous ceux qui écoutent
oui,
en ce moment.
J'écoute.
Là, si vous voulez faire partie du pool, ben, faut savoir qu'on revient avec ce fameux pool de hockey de la saison 2025-2026 et toujours avec la fromagerie Victoria. Donc, c'est le plus gros pool que tu peux participer, c'est sûr. Tu t'en vas directement sur le site blvd.fm. Puis là, tu vas aller cliquer sur l'hyperlien, là, la petite case qui te mène au pool sur marqueur.com. Fait que quand tu cliques dessus, il t'amène à la bonne place. C'est tout simple. Et le grand gagnant du pool cette année va être annoncé en avril, donc à la fin de la saison régulière. Et ça va être 500 $ à gagner de la fromagerie Victoria direct dans tes poches. Puis là, tu n'as pas besoin d'être un pro de statistiques puis tout ça. En passant, tu as juste besoin de vouloir battre tes chums, puis surtout Max Larouche en passant. J'aime mieux le surligner, ça. Faut pas qu'il gagne. Si tu es un expert, si tu n'es pas du tout connaisseur, tu t'inscris sans complexe, c'est tout. On veut s'amuser tout au long de la saison. C'est pas des experts qui gagnent nécessairement à un pool comme celui qu'on vous a fait. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. On va faire un gagnant chaque mois pour une carte cadeau en plus de 200 $ parmi le top 25 du pool. 25% de chance de gagner une carte cadeau de 200 $ à chaque mois. C'est quand même pas rien. Puis à la fin, c'est 500. Donc, grand prix de 500 de la fromagerie Victoria. Dépêche-toi. Bonne chance à tous. Et vous avez besoin de mettre peut-être vos petits doigts en feu pour la suite des choses parce que c'est juste le blvd.fm qui t'amène justement au bon endroit pour ton pool de hockey.
Pascal Cévé, tu viens de nous renseigner de façon exceptionnelle.
Je voyais au 88-971-1021 les questions entrées. J'y répondais au feu.
T'es une machine de guerre. Je suis certain quand on vient du Kilimanjaro, tu tombes dans le hockey, il n'y a pas de doute là-dessus.
On va falloir me convaincre. Mais un pool, par exemple, ça, j'aime ça.
Ouais. Je veux qu'on termine l'émission avec Jenny Guilmette. Sa fille Anaïs est victime d'intimidation depuis la maternelle. Et sur les médias sociaux, on lui a dit de se prendre la corde autour du cou. Madame Guilmette, comment allez-vous dans cette situation plus difficile? Est-ce que vous êtes bien là, Madame Guilmette?
Oui,
oui.
Je suis là.
Comment allez-vous dans cette situation plus difficile pour votre fille?
Ben, c'est sûr que ça brasse les émotions pas mal, là, je vous dirais.
Oui, hein? Exactement.
Vous êtes là-dedans depuis plusieurs années, c'est ce qu'on comprend. Puis là, il y a eu un momentum qui est inacceptable, qui vient d'arriver.
Oui, je vous dirais que c'est arrivé au courant vers la fin de l'été. Puis là, ben, c'est rendu... C'était déjà inacceptable, mais ce que c'est qui s'est passé dernièrement, ça l'est encore plus.
Oui, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement dernièrement?
Bien, en fait, c'est que ma fille se faisait déjà intimider à l'école, puis on s'entend que ça s'est rendu sur les réseaux sociaux. Ma fille faisait une vidéo TikTok à imiter un oiseau, tout simplement. Puis il y a un des commentaires, là, une élève de l'école qu'elle fréquente a écrit « Mets-toi la corde au cou ».
Pardon?
Puis, ouais. Elle dit « Mets-toi la corde au cou, puis de toute façon, je ne suis pas sûre que ça tienne ».
OK. Et qui peut vous aider dans cette situation-là? Est-ce que vous avez regardé avec l'école comment tout ça a fonctionné?
Bien, en fait, c'est que ça, nous, ma fille a fait une plainte à la Sûreté du Québec via l'école. La plainte n'a pas été retenue par le procureur parce qu'il manquait le mot « pendre » dans la phrase.
Ah, fait que c'est une affaire de nomenclature pour laquelle ça n'a pas été retenu.
Oui, voilà.
Est-ce que ça arrête le processus judiciaire à ce moment-là?
Ça arrête le processus judiciaire, mais par contre, si on rappelle le DPCP puis qu'on relance la plainte, il y a un procureur externe qui va réanalyser là, cette phrase-là, en fait, si je peux dire. Là.
Et est-ce que c'est votre intention?
Effectivement.
Qui vous aide hein, là-dedans?
Bien, c'est sûr que là, présentement, les institutions scolaires font tout ce qu'ils peuvent. Ils ont les mains liées, ils ont des procédures à faire, mais on s'entend que le système, il est complètement désuet. On fait des avertissements aux intimidateurs, on leur fait signer des contrats de paix. Après ça, quand c'est pas respecté, soit qu'il y a des suspensions ou soit que ça vire en CVI, le contrat de non-violence et de non-intimidation. Mais je veux dire, à part ça, faudrait vraiment prendre les intimidateurs puis les sortir de l'établissement scolaire puis que les rester à l'école puis être scolarisé.
Ouais, parlez-moi de votre médecin de famille. Qu'est-ce qu'elle a mentionné à votre fille?
En fait, c'est pas la médecin de famille, c'est la pédopsychiatre parce okay. que Anaïs dans tout ça, on dit à Anaïs qu'elle a un problème d'adaptation, que en fait on dit à Anaïs que c'est à elle à passer par-dessus l'intimidation. Donc, un des professionnels qui est autour d'Anaïs, c'est une pédopsychiatre. Puis, à la fin de la dernière rencontre, elle a dit à Anaïs, bien, il y a Ozempic.
Donc, la solution pour votre fille, c'est Ozempic, c'est pas que les intimidateurs cessent leur comportement.
Oui, en d'autres mots, oui, ça ressemble à ça.
Est-ce que votre fille a posé la question du genre, comment est-ce que je pourrais perdre du poids ou quelque chose, puis ça a été dans une nomenclature d'idées, ou parce que c'est un peu difficile à croire que ce serait sorti comme ça, là?
Ça a sorti comme ça.
OK.
Ça a sorti comme ça parce qu'on a tout établi. C'est comme si la pédopsychiatre avait toutes sorti les solutions qu'elle pensait. C'était son dernier recours.
OK. Et là, votre fille, puis je termine là-dessus l'entrevue. Merci infiniment pour votre courage de nous parler aujourd'hui. Votre fille fait l'école à la maison à l'heure actuelle. Est-ce qu'elle souhaite retourner à l'école?
C'est sûr qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est de vivre une adolescence comme toutes les adolescents. Elle souhaite retrouver ses quelques amis qu'elle a. Elle souhaite vivre une vie normale. Elle souhaite avoir une estime d'elle-même qui est présentement complètement brisée, détruite. Puis, elle ne se sent pas en sécurité non plus pour retourner. Donc, présentement, mais moi, je fais tout à mon pouvoir pour la scolariser du mieux que je peux de mon côté.
Madame Guilmette, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Puis, on vous souhaite un excellent courage et on est derrière vous là, dans le combat que vous menez contre les intimidateurs.
Merci pour votre visibilité.
Hey, merci à vous. Passez une belle fin de journée.
À vous aussi, au revoir.
Merci. C'était Jeanne Guilmette, mère d'Anaïs. Ça donne des frissons dans le dos, hein, une histoire comme ça.
Je retiens surtout la peine qui n'a pas été retenue par rapport à la nomenclature, le mot qui n'était pas là et tout ça. T'sais, on est rendu à demander à un enfant, une adolescente de se pendre.
Mm-hmm.
Puis en passant, il y a des lignes hein, d'urgence si vous avez besoin d'aide. Là. Écoute, on en parle-tu demain?
Oui, on en parle demain. On sortira des extraits parce que malheureusement, on manque de temps dans l'émission, mais on sortira des extraits, on en parlera demain. On fait ça, Pascal?
Oui, puis vos commentaires 88-971-102 si vous voulez nous orienter sur des pistes, si vous vivez les mêmes choses, on va faire un retour là-dessus.
En plein ça. Le retour de Gravel suit à l'instant avec Denis Gravel, Véro Bergeron, Audrey Pinchot et nous, on est de retour demain à midi. Bonne journée, guys!